Alors, on va commencer la lettre 14 d'Admour HaZaken. Vous savez que l'Admour HaZaken, il ramassait beaucoup d'argent. Beaucoup. Il ramassait beaucoup de tzedaka, d'abord pour ses institutions, mais aussi pour des yeshivot en Israël. Je vais raconter une fois que il y avait une grande partie du mouvement chassidique qui a fait sa alia en Israël à cette époque-là. Ça fait à peu près donc 200 ans d'aujourd'hui. Et malheureusement, en Israël, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils n'avaient pas de quoi vivre. Donc, qui c'est qui subvenait à leurs besoins? C'est des dons qui venaient donc de la Russie, de l'Ukraine. Donc l'Admour HaZaken ramassait beaucoup d'argent pour les juifs qui habitaient là-bas. Maintenant, vous imaginez que les juifs qui habitaient eux-mêmes en Russie, en Ukraine, ils passaient par des moments très difficiles. Déjà, on leur avait interdit l'accès à peu près tous les métiers. Les seuls métiers qu'on leur avait laissés, c'est les métiers de la terre. C'est-à-dire tous les métiers, toutes les professions libérales étaient interdites aux juifs à ce moment-là. Donc ils étaient déjà très très limités. Et avec ça, déjà, ils avaient du mal à subvenir aux pauvres de la Russie et de l'Ukraine. En plus, tu me dis maintenant, tu sais quoi, maintenant il faut s'occuper aussi des pauvres qui en Eretz Israël. Et bon, Dieu va les aider. D'accord? Donc ça, c'est une lettre que l'Admour HaZaken est en train de s'adresser aux chassidim. Il envoie à tous les chassidim cette lettre. Et il leur demande, il leur dit, je sais que c'est difficile, je sais que les moments sont passés, la vie est difficile actuellement. Mais donner de la tzedaka en Eretz Israël, c'est particulièrement. Donc, pour expliquer l'importance de la tzedaka en Eretz Israël, il va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est Eretz Israël, pourquoi c'est tellement important. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est une lettre que je voulais étudier maintenant. D'accord? Donc, il y en a qui voyagent en Israël? Voyagent en Israël?
Non.
Bon, en tout cas, même s'il y en a qui voyagent, il y en a qui voudraient voyager. Hein? Voilà. Donc, ça marche. D'accord? Moi non plus. Je viens d'habiter cette langue, je crois. Ok, donc on va essayer maintenant donc d'étudier cette lettre. Sur cette lettre, j'ai de moi à Zaken. Alors, les horaires est à Ahava Ayeshana. Donc je suis à la page 239. Et on va prendre la lettre numéro Yud Dalet. Vous avez là. Les horaires est à Ahava Ayeshana. Le but de cette lettre est d'éveiller le vieil amour, Vechibat Eretz HaKodesh, et l'amour qu'on a toujours eu vers la terre qu'on appelle la terre sainte. Liot bo eret kirishvehesh. Mikirev ish velev amok. Normalement, c'est un amour qui devrait brûler au fond de nous. C'est-à-dire que normalement, déjà, l'Admour HaZaken, avant même de commencer sa lettre, il dit normalement, j'aurais même pas eu besoin d'écrire cette lettre. Ça veut dire, on demande de l'argent pour l'État d'Israël, on a besoin maintenant de nous convaincre. C'est évident. Mais il dit, bon, concrètement, Keilu ayom mamash natan Hashem rucho alenu ruach nedivah. Qu'en vérité, tous les jours, on devrait se rappeler que c'est comme si Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau aujourd'hui la terre d'État d'Israël. Dieu nous a donné un cadeau. On peut venir maintenant et de dire, Dieu nous a donné un cadeau, on va le négliger. C'est sûr que si Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau, on ne peut pas le négliger. Donc on ne peut pas négliger la terre d'Israël. Beit Nadev, Am, Lemalot, Yadam, Lachem, Biad, Melaoun, Rechava. Là, l'Admour HaZaken, il dit, je sais qu'au fil des années, vous avez déjà donné beaucoup. Vous avez déjà donné beaucoup pour les yeshivot en Israël. Beribouy, Acharibouy, Mideshana, Beshana. Oler, Umala, Lemalarosh. L'Admour HaZaken, il dit, écoutez, je sais que ça fait déjà plusieurs années qu'on donne. Et on a vu, quand on a les comptes, on sait que d'année en année, les chassidim ont donné de plus en plus pour Eretz Israël. D'accord ? Donc, il ne veut pas nous attaquer. Il est conscient qu'il y a un problème, qu'il y a une crise financière, et que c'est très difficile pour tout le monde. Il dit, je suis conscient que si maintenant on donne moins pour Eretz Israël, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie. La preuve, c'est que quand on prend le bilan des dernières années, on voit que chaque année, ça allait en augmentant. Donc, ça veut dire que les gens veulent donner pour Israël. Donc, il est clair. Si maintenant les gens n'arrivent pas à donner, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi. Ok. Kemidat Kodesh Elyon Ameir l'Eretz Kodesh Amitradesh ou Mitrabe Tamid. Alors là, il commence à expliquer quelle est l'importance et la qualité d'Eretz Israël. Je pense que c'est important d'étudier ça avant d'aller en Israël, et même si c'est pas maintenant, ce sera une autre fois. Puisque avant d'expliquer cette lettre, vous savez, j'ai parlé Shabbat un petit peu à Farringen, j'ai dit que le rabbi disait toujours que de la même manière qu'avant de rentrer dans un pays, on doit demander un visa. Bon, pour Israël, il n'y a pas besoin de visa, mais. De la même manière, il y a besoin de demander un visa spirituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en Israël comme ça pour faire des vacances. C'est presque un manque de respect envers Israël si en Israël, on va se comporter de manière moins religieuse que ce qu'on était en France. C'est un manque de respect envers la terre d'Israël.
C'est ce qui arrive.
D'accord ? Bon, et là, encore, ce n'est pas Israël. Non, c'est vrai. Et là, ce n'est pas Israël. C'est déjà mieux. Mais voilà, Natania par exemple, le rabbi dit, il faut faire un visa pour entrer en Israël. Je ne peux pas te permettre d'entrer en Israël et de te comporter moins bien que ce que tu étais en France. Ou aux États-Unis dans la lettre qui parlait, c'est pas possible. C'est très grave. Ah, il dit comme ça. Il dit, pourquoi Eretz Israël c'est tellement important? Alors maintenant, on va aller progressivement. On va d'abord voir ce que le Chumash dit à propos de l'État d'Eretz Israël, ce que la Torah. Et après, on va aller progressivement dans la Kabbalah. D'accord ? Mais d'abord, on va commencer par le Pshat. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'État d'Eretz Israël ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Kedirtiv, comme c'est écrit. Donc, Shalim qui commence. Amitradesh. Je vais un peu vite, hein, parce que je vais aller directement au vif du sujet. Donc, Kedirtiv, comme c'est écrit. Tamid ene Hashem Elokechaba. C'est écrit comme ça dans la paracha Ekev. La paracha Ekev, c'est la paracha de la semaine prochaine. C'est écrit que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont toujours rivés, mais Reshit Hashana Ve'adacharit Shana. Les yeux de Dieu sont toujours rivés sur cette terre, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Concrètement, ça veut dire quoi ? Comment vous comprenez ce texte quand vous lisez ça ? On essaye de comprendre quelle est l'importance de la terre d'Eretz Israël. Quelle est la différence entre Israël et la France ? Alors d'abord, numéro 1, tout à l'heure on a dit, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Bon, ok, c'est un cadeau, on l'apprécie, je veux bien. Mais on aimerait comprendre, à part ça, pourquoi on doit aimer la terre d'Eretz Israël plus que notre terre ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Est-ce que ça veut dire que les yeux de Hachem ne sont pas dirigés vers la France ?
Alors, bonne question.
Constamment. C'est pour ça, pourquoi en principe on sait que Hachem est partout ?
Et partout ?
Oui, alors pourquoi, ce qu'il dit ?
Ça laisserait entendre que.
Oui, ça laisserait entendre qu'il n'est pas. Que...
Ah voilà, comment on comprend ça ?
Ah oui.
C'est très important de comprendre ça. À propos de la terre d'Eretz Israël, il n'y a pas beaucoup de versets dans la Torah qui parlent de l'importance de la terre d'Eretz Israël. On nous raconte des histoires autour, le partage de la terre d'Israël, les explorateurs qui ne voulaient pas rentrer. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette terre ? On dit dans un autre endroit que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel. Bon, peut-être. Il y a d'autres terres. Si vous prenez par exemple, si je vous pose la question franchement, honnêtement, entre la France et Israël, quelle terre est plus fertile ? Honnêtement.
A
priori la France, de très très loin. De très très loin, c'est incomparable.
Mais pourquoi, attends, est-ce que c'est une métaphore quand on parle du lait, du miel ? Ça veut dire quoi ?
Alors
du
justement.
Lait, vraiment du miel ?
Non, le. Alors non, c'est pas le. Ah. Le lait, d'accord ? Rachid explique que quand on parle du lait, du miel, c'est le lait, le miel de date.
C'est-à-dire ?
C'est de la date.
Ah, d'accord.
Bon, ça veut dire que la terre d'Israël, c'est une très belle terre. Mais si on s'arrête uniquement aux critères physiques.
Oui, c'est pas. C'est un climat très chaud, c'est pas tempéré, il n'y a pas beaucoup de pluie.
C'est pas le top. D'accord ? Bon. Donc déjà, si on se focalise côté matériel, a priori, bon, c'est une terre où coule le miel, mais il y a d'autres terres où coule beaucoup plus de choses que ça. Après, tu me dis, la Torah te dit, la terre d'Eretz Israël, c'est une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire du début de l'année jusqu'à la fin de l'année ?
Même pas déjà.
Alors, il pose une question très simple. La Gemara Zaken, il va poser une question très simple, toujours avec l'esprit talmudique. Il dit, si les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il fallait dire, ils sont tout le temps rivés.
Ah oui.
Ah ouais, d'accord, ouais. Pourquoi il dit du début à la fin ?
C'est quoi le, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année ? Quel est le repère de l'année ici ?
Ça peut-être parce qu'il veut dire que c'est parce que ça se renouvelle.
Induire
le fait qu'il y ait pas tout le temps, il veut dire du début à la fin.
On va essayer de voir, parce que sinon on comprend pas.
Voilà, c'est ça. C'est...
Si tu veux me dire que Akadosh Baruch Hu est toujours présent, dans ce cas-là, dis-moi, Dieu est toujours là.
Voilà.
Pourquoi tu prends comme référentiel l'année ?
Du début à la fin, c'est que c'est pas une période qui est renouvelée. Sinon, on l'aurait dit tout le temps.
Alors, comment il faut comprendre ça ? C'est la question qu'il va poser ici. Mais pourquoi il pose cette question ? Parce qu'en vérité, c'est notre seul repère qu'il y a dans la Torah. Notre seul repère qu'il y a dans la Torah qui nous explique quelle est l'importance des Eretz Israël. On a dit, bon, le lait, le miel, ça c'est physique, et bon, à la limite, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Nous, ce qu'on va chercher, c'est ce que la Torah dit spirituellement sur la terre des Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, il dit comme ça. Il dit que quand on dit que les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ça laisse entendre que c'est quelque chose qui se renouvelle constamment, comme ce que vous avez dit. D'accord ? Mais, on reste avec la question, pourquoi on a pris comme référentiel l'année ? Pourquoi on ne dit pas tout simplement, c'est une terre sur laquelle Dieu regarde toujours ? Et en plus, la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'en France, Dieu ne regarde pas toujours la France ?
Oui.
Alors ? Si je vais maintenant, il y a des pays dans lesquels Dieu ne regarde pas, on fait ce qu'on veut là-bas. Hein, tu vas à Ibiza là-bas, c'est Dieu regarde une fois par an. Alors c'est quoi ?
C'est le novembre.
Ouais. Comment ça marche ? Hein, David ?
Le texte va nous le démontrer.
Il va nous démontrer.
Ah, belle pierre, ouais.
Vous voyez, appel. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'appel, on ouvre le Chumash, on voit qu'on n'a rien compris en vérité.
Je connais la réponse.
On ne sait même pas pourquoi l'état de Eretz Israël est particulier. Yves, tu entends ? Il fait sa mine là. Il va aller en Israël, lui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Dans les mots. De haï ve adacharit gomer. On pose la question, il dit, le fait que la Torah te dit ve adacharit, que Dieu est présent dans la terre d'Eretz Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et une mouvane, c'est pas compréhensible. Lire ora, a priori, c'est pas compréhensible. Share, beacharit shana zo, à la fin de l'année numéro 1, va commencer matrelet shana shnia, va commencer la deuxième année. Et à la fin de la deuxième année, va commencer la troisième année. Donc ça veut dire qu'en vérité, Dieu est toujours là-bas. Donc pourquoi tu dis du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Veimken, si c'est comme ça, avele le memar, leolam va ed. Il aurait dû dire que Dieu réside sur cette terre toujours. Point, c'est tout. Pourquoi du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Voilà comment il va expliquer maintenant, une explication magnifique. Ça, cette explication est basée sur le Harizal. Parce que selon le Pshat, vous regardez le commentaire de Rashi sur la Parasha de la semaine prochaine, il dit rien. Bon, on comprend, le Pshat, c'est-à-dire que Dieu est toujours là-bas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu me dis depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Quel rapport avec l'année? D'accord? Alors, en passant déjà, vous savez que ce texte-là, c'est un pasouk que le tzadikim amenait beaucoup, le rabbi amenait beaucoup ce pasouk aussi, notamment quand il a voulu rassurer les juifs pendant la guerre du Golfe. Tu sais, pendant la guerre du Golfe, il y a beaucoup qui voulaient partir. Il y a beaucoup d'élèves de yeshiva, par exemple, américains ou européens, que leurs parents voulaient leur payer le billet pour revenir. Ils revenaient. Et ils demandaient au rabbanim, et bon, il y a beaucoup de rabbanim, et le rabbi avait dit clairement, il avait dit, il ne faut pas partir d'Eretz Israël. Pourquoi? Il a dit, Eretz Israël, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Pourquoi? Il a amené ce pasouk. C'est une terre que Dieu regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Bon, on reste quand même avec notre question. Ça veut dire quoi que Dieu regarde cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il va expliquer. Ah, là, on va bifurquer sur la Kabbalah. D'accord? Vous allez voir que la Kabbalah, on va prendre une piste complètement inattendue. Ah, Ha'inyan Yuvan. On va comprendre ça. Alpi Mashekatouv, selon ce qui est écrit, Hashem Bechorma Yassad Aretz. Il dit en vérité, pour comprendre l'importance d'Eretz Israël, il faut revenir à la création du monde. Il faut revenir à la création du monde. Ça suffit un peu, Yves? Tu vas en Eretz Israël, c'est ça?
Demain, c'est du monde.
Ah, voilà. Donc, ouais. Alors, comment tu comprends, toi, Yves, quand on dit que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre où les yeux de Dieu sont rivés depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Comment tu comprends ça?
On fait ça.
D'abord, pose une autre question, plus simple. Pourquoi tu vas en Israël?
Réponds pour donner la tzedaka.
Non.
Pourquoi je vais en Israël? Oui. Côté pratique déjà, parce que je suis certain de pouvoir manger cachat à peu près partout.
Ah non, pas, c'est faux.
C'est pas évident.
Tu vas en Israël, là, tu vas, t'as plein de trucs, t'arrives, c'est.
Ah bon?
À tout, hein. Non, mais je suis allé, c'est où, c'est bon, tu vois.
D'accord. Mais on peut quand même trouver du cachat.
Plus facile. Rassure-moi. Oui, tu vas trouver du cachat.
Si on
est caché
à Tel Aviv, c'est une
gageure.
Hein.
Oui,
c'est
Tel Aviv,
c'est de plus en plus facile maintenant.
Vous vous trompez, ça fait longtemps que vous n'avez pas
aidé. Ma femme me dit il y a 8 mois. Et...
Trouver du caché à Israël,
non, trouve du cachère. Oui, d'accord.
C'est plus facile de trouver du caché en Israël qu'à Ibiza.
Oui, bon.
Bientôt, on ne va plus trouver de caché en Israël. Attends, faut peut-être pas abuser. Non, ma prochaine, si tu trouves du caché, tu as des hôtels cachés.
Alors, tu vas en Israël pour le caché.
Déjà, parce que pour moi, c'est important de pouvoir, quand tu es en vacances, de ne pas courir un endroit à un autre ou de manger une glace et de poser la question, est-ce que je vais trouver une glace cachère?
Alors, ça veut dire que si on pose la question à la terre d'Eretz Israël maintenant, on va lui demander pourquoi Yves Guedalia, il vient chez moi. Elle va dire pour manger une glace.
Tu m'as parlé des vacances. Maintenant, tu m'as parlé des vacances. Maintenant, je sais que je peux avoir...
Et on va développer, assis-toi.
Tu
vas pas parler du visage.
T'as raison, t'as été honnête, c'est bien.
Je vais pas dire la...
Voilà, il a raison.
La vérité pour les vacances, c'est ça. Et sinon...
Ah, il a raison, parce qu'il y en a qui te répondent, c'est pour aller au Gvarim ou Tzadikim, etc.
Mais c'est quoi, ça n'empêche?
Ça n'empêche pas, non?
Non, pas seulement.
On va essayer de voir.
Moi j'ai eu le problème, enfin mon frère a eu le problème il y a 3 ans de ça. Méfie-toi quand même, parce que pour te le dire, comme ils sont arrivés dans un restaurant, je leur dis, ah oui, t'es Ouda, cachère. Et heureusement, c'est comme ça, tu vois, elle était à une école, justement là où il y a Steve, il y a Ethan, tu vois, à Beth Yaakov. Elle arrive, elle dit, mais c'est pas une théoulière, ça. Il y a marqué, genre, venez visiter Israël, tout, mais ça n'a rien à voir. C'est un truc qui n'a rien à voir, c'est pas une théoulière, c'est pas quelque chose, en fait.
Ouais, il connaît,
il a... Non, mais je...
Allez, on y va. Ok.
On sait quel
il, a, il a des mots, genre, c'est comme ici, il fallait faire des bonnes, des mauvaises.
Alors, on va revenir maintenant sur... On va revenir maintenant, on a rien expliqué, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que...
barbu assis déjà au restaurant, je me pose la question.
Quand on dit que... Quand on dit que la terre d'Israël, c'est une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Donc déjà, il a posé une question, il a dit, t'aurais dû dire directement que les yeux de Dieu sont rivés tout le temps. Pourquoi tu lis du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Donc on a dit que pour répondre à cette question, il faut expliquer quelle est l'importance d'Eretz Israël. Pour comprendre l'importance d'Eretz Israël, il faut revenir déjà depuis la création du monde. Et voir comment, dès la création du monde, la conception de la terre d'Eretz Israël n'est pas la même que les autres terres. Donc on va devoir revenir maintenant à la création du monde. On va expliquer que depuis ce moment-là, il y a une différence entre la terre d'Eretz Israël et les autres terres. D'accord? Donc on va revenir doucement, doucement. Je suis au paragraphe qui commence par le grand Ach. Ach Ainyan Yuvan. On va comprendre ça. Alpi Mashekatouv, selon ce qui est écrit dans Michelet, Hashem Bechorma Yassad Aretz. Dieu a fondé la terre avec la Chorma, avec l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc rappelez-vous, on va revenir maintenant au moment de la création du monde. On te dit qu'au moment de la création du monde, Dieu a créé, Dieu a fondé la terre avec la Chorma, avec l'intelligence. Là, il explique. Chez Yesod Aretz Elyona ou Prinat Memale Kolamin. Ve Tartona I Eretz Refet Amekuvenet Kenegda Mamash. Ve Nikret Alshma Eretz Achaim. Alors regardez ce qu'il explique ici. Là, ça va compliquer un petit peu, mais il va développer. Il dit comme ça. Il dit, Eretz, en hébreu, ça veut dire quoi? La terre. Mais pourquoi on appelle Eretz la terre? Baal Shem Tov explique comme ça. Il dit, il se base sur le Harizal. Il dit, dans le mot Eretz, il y a le mot Ratson. Ratson en hébreu, ça veut dire quoi? La volonté. Quel rapport entre la terre et la volonté? Il explique. Il dit, parce qu'en vérité, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, avant de créer le monde, il a créé l'infrastructure dans laquelle il y a les Malachim, dans laquelle il y a le Gan Eden. Ça s'appelle Eretz. Ça s'appelle aussi une terre. On appelle ça la terre de la vie. C'est d'ailleurs dans les textes qui parlent quand on dans les enterrements etc. On dit que celui qui meurt il va vers la terre de la vie. C'est quoi la terre de la vie? C'est le Gan Eden. Ça c'est Eretz. Maintenant, quelle est la particularité de Eretz Israël? C'est que de la même manière qu'il y a une terre en haut, de la même manière il y a une terre en bas. Mais rappelez-vous, Eretz en hébreu ça veut dire quoi? Ça veut dire volonté. La terre, mais ça veut dire la volonté. C'est-à-dire que c'est un endroit que Dieu veut. Alors il te dit comme ça. Il te dit de toutes les terres qu'il y a dans le monde, la seule terre qui correspond parfaitement au Gan Eden, laquelle on peut dire que Dieu a envie de cette terre, c'est quelle terre? C'est la terre d'Israël. C'est-à-dire, on n'est pas en train de te dire que les autres, Dieu ne le regarde pas. Non, c'est pas ça ce qu'on veut dire. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que la terre d'Israël, c'est la seule terre qui partage les mêmes caractéristiques que la première terre qui était la terre du Gan Eden, ça veut dire c'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu a envie. Akadosh Baruch Hu désire cette terre. Akadosh Baruch Hu sent que là-bas, il est chez lui, à la maison. On dit comme ça, c'est expliqué dans un autre midrash, il dit que de la même manière que tu as un roi qui peut avoir plein de biens, il a des châteaux, il a tout ce que tu veux, mais il y aura toujours une maison qui kiffe. Et il n'y en a pas 10, il y en a une seule. Il y en a une seule. C'est sa maison, et quand il veut se détendre, il va dans cette petite maison, c'est sa maison qu'il préfère. Pourtant, il peut en avoir 20, 50, 100, 1000. Mais toujours une qu'on préfère. Une qui préfère que c'est ma maison, c'est ma volonté. Ben, on dit la même chose dans le monde. Dans le monde, de toutes les terres, la beauté de la terre d'Eretz Israël, c'est pas forcément physique que là-bas, il y a beaucoup de fruits, etc. Parce qu'il y a d'autres terres où il y a beaucoup mieux que la terre d'Israël. C'est pas ça la beauté. La beauté de la terre d'Eretz Israël, c'est que spirituellement, c'est la seule terre qui est à l'image du Gan Eden. Maintenant, ce qu'il va expliquer, c'est que de la même manière que dans cette terre qu'Akadosh Baruch Hu a créée, il y a le Gan Eden et il y a le Gehinnom. Ah oui. Dans cette terre, la première terre que Dieu a créée, la première volonté de Dieu, la première infrastructure que Dieu a créée.
Il y avait déjà...
Bien sûr, il a créé, il y avait déjà Gan Eden, Gehinnom. Donc la terre d'Eretz Israël, si tu dis qu'elle correspond à 100%, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans la terre d'Eretz Israël aussi, tu peux avoir le plus grand Gan Eden comme le plus grand Gehinnom. C'est exactement à l'image de ce qui se passe dans les sphères célestes. Les autres terres, c'est plus stable. Bon, la terre, elle est comme elle est, ça bougera pas. La terre d'Israël, toute personne qui est déjà partie en Israël a déjà vu ça. On voit comment c'est une terre dans laquelle tu peux être dans une rue et tu vois des gens en train d'étudier la Torah à un niveau très haut.
Ah oui, les,
tu traverses la rue, t'as des trucs Hashem Yishmor, Dieu préserve. Comment c'est possible? Je lui dis, c'est très simple. Il dit, parce que la terre d'Eretz Israël, elle est calquée sur la première infrastructure, la première volonté de Dieu, la première terre de Dieu, qui est le Gan Eden. Le Gan Eden est juste à côté le Géhinnom. C'est exactement le cas dans la terre d'Eretz Israël.
Si tu dis que la terre, le Gan Eden et le Géhinnom déterminent en fait la destinée de la terre d'en bas.
Non.
Non. Tu dis que les deux sont...
C'est que les deux existent.
Les deux existent.
Et qu'on peut choisir où on va à droite, ou on va à gauche.
D'accord, ok.
D'accord. Les autres terres sont les terres plus stables.
D'accord.
Ça veut dire que chaque terre a un style, une destinée.
C'est le bas qui influe le haut ou c'est le haut qui influe le bas?
C'est le haut qui influe le bas.
C'est le haut qui influe le bas.
Ouais.
Donc c'est-à-dire que c'est Hachem qui rend le Géhinnom plus pourri que...
Ah bien sûr, c'est Hachem qui fait... On dit qu'en Israël, on a plus l'envie de faire le mal qu'en dehors d'Israël.
Ah.
Ouais. Ouais. On dit que l'envie de fauter en Israël est plus forte qu'en dehors d'Israël.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que justement,
et l'envie de faire des bonnes actions aussi.
Parce que comme le satanisme, que c'est un endroit dans lequel il y a une grande Kdoucha, d'accord, qui est une Kdoucha qui correspond au Gan Eden. D'accord, donc le satan, il fait tout pour pousser de l'autre côté à une avéra qui est aussi grave que le Géhinnom. Mais ça veut dire qu'en dehors d'Eretz Israël, c'est beaucoup plus stable. C'est beaucoup plus stable. Il n'y a pas comme en Israël que tu peux être tout en haut ou tout en bas. C'est beaucoup plus stable.
Il y a moins de contraste, en fait.
Il y a moins de contraste, beaucoup moins. On le voit d'ailleurs.
Ah oui, quand on trouve qu'en fait, on a tous les avérotes qui ont...
Oui, mais il n'y a pas le même contraste qu'en Israël. Si tu prends par exemple un pourcentage général de la France, tout le monde est à peu près dans la fourchette du milieu. C'est pas du tout comme en Israël. En Israël...
Ah oui, les extrêmes, d'accord.
Complètement. Et c'est pas par hasard. Ça a toujours été comme ça. Vous lisez le Nar, vous lisez la Bible, d'accord? Vous lisez depuis à l'époque des rois, etc. C'était comme ça aussi. Même chose. Juste, voilà, ce jour de Tisha B'Av, je lisais l'après-midi de Tisha B'Av, je lisais Flavius Joseph. Tu lis les histoires de Flavius Joseph. La même chose. Il te raconte là-bas comment il y avait les différentes parties qu'il y avait dans l'âme Israël. Tu avais ceux qu'il appelait les Prouchim. Les Prouchim, c'était les gens qui étaient ultra-religieux, d'accord? Et tu avais des gens, il te raconte comment c'est des gens qui ne croyaient pas en la Torah, etc. Mais vraiment la même chose. En Israël. À Jérusalem, à l'intérieur de la muraille. C'est fort.
Et alors qu'il y avait le...
Il y avait le Beth Amikdash.
Hein.
Il y avait des gens qui étaient à l'intérieur qui n'ont jamais mis les pieds dans le Beth Amikdash.
Ah, carrément.
Ah ouais.
À l'époque déjà.
Bien sûr.
Pourtant, tu vois ce que c'est que la entre les murailles, quoi. Le Beth Amikdash, où il est.
C'est petit, c'est très petit. Voilà. Tu peux pas le rater. Il faut chercher à l'éviter, quoi.
Je ne veux pas le mettre en
vente.
La muraille, c'est qui entoure le Beth
Amikdash. Tu vois, quand tu arrives à la fin de la rue Yafo, là-bas.
La
grande muraille.
Ces portes, ça, c'est l'extérieur.
Oui.
Ça, c'est l'extérieur.
Tu rentres à l'intérieur de ces portes-là. Pour arriver au Kotel, tu marches combien de temps?
500 mètres.
5 minutes. 5 minutes. T'as déjà fait la ville.
Ouais. Ça fait toute la ville.
Alors, tu comptes encore, pratique. Tu comptes encore peut-être encore 5 minutes pour aller de l'autre côté. C'est très petit. C'est très petit.
Ça fait quoi? Ça fait même pas un arrondissement, tout.
C'est rien du tout.
Et ils sont jamais mis les pieds au...
Hein? Même pas.
Même pas.
Comme peut-être le deuxième ou le troisième, voilà.
C'est des gens qui mettaient jamais les pieds.
Les juifs.
Sûr, ouais. Ça nous choque.
Non, je sais parce que bon, je sais que tu connais un peu Israël, mais moi, mon père était tellement choqué au début. Oui, des trucs tarés, mais c'est on est en Israël, mais on croyait entrer en Israël bon, dans
si,
un restaurant.
Mais forcément, avant de la première fois d'y aller, tu as
idéalisé.
Et quand tu arrives, c'est un choc la première fois.
Toujours.
Mais
c'est un choc.
Après,
non, mais il a pas tort. Il explique ici que le mal en Israël est plus fort qu'en dehors d'Israël. De la même manière que la Kdoucha en Israël est plus forte.
Mais Baruch Hashem, pour avoir l'occasion quand même d'y aller régulièrement depuis quelques années, je vois quand même que beaucoup de
choses... Oui, bien sûr.
C'est tout.
Simplement, on veut expliquer quelle est la...
Que si tu as la version comme tu idéal au départ, ça, c'est pas ça.
T'es déçu, tu attends.
Des élevages de porc...
Alors, il va expliquer, d'accord?
Non, c'est pas d'élevage de porc, c'est...
Bon.
Si tu veux voir, tu peux tout voir. Si tu veux pas trop voir...
En tout cas, voilà. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est pas par hasard si dans la terre d'Israël, si dans la terre d'Eretz Israël, il y a le mal qui est très fort, et s'il y a le bien qui est très fort, c'est pas par hasard, d'accord? C'est parce que la terre d'Eretz Israël est calquée exactement sur l'infrastructure sur laquelle il y a le Gan Eden et le Géhinnom. Donc ça nous montre la grandeur de la terre d'Eretz Israël. C'est une terre énorme. C'est une terre qui est calquée sur le Gan Eden et le Géhinnom. C'est énorme comme terre. D'accord? Alors il explique. Donc vous voyez que déjà, et ça, hein, c'est déjà depuis la création du monde. Ça veut dire que depuis que Dieu a créé le monde, il a prévu que la même infrastructure qu'il a créée en haut avec le Gan Eden et le Gehinnom, il allait avoir une terre en bas qui allait être calquée sur la même infrastructure. Et c'est pour ça que la terre d'Israël, c'est la seule terre qu'on appelle Eretz. Les gens, ils disent, on va en Eretz. Eretz en hébreu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la terre. La France, c'est une terre aussi. Non. Pour nous, selon la Torah, la vraie terre, c'est la terre d'Israël. Parce que Eretz, c'est Ratson, c'est la volonté. Et la vraie terre qui correspond à la volonté de Dieu, c'est la terre d'Israël. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec un critère physique. Simplement, c'est un critère, on t'explique, depuis la création du monde, c'est une terre qui correspond exactement à ce qui se passe en haut. Alors, il va rentrer maintenant plus profondément. Donc, iné, nimshach, me'am shachat ve'aras rochma ila'a. Alors voilà, on va prendre dans les mots. Je vous explique à l'oral. Voilà. Je suis trois lignes avant la fin de la page.
Tu faisais allusion tout à l'heure, c'est comme une personne ou un roi, tu sais, qui aimait une de ses meilleures habitations.
Oui.
Bon, il aime les habitations, non pas pour l'habitation elle-même, pour ce qu'elle renferme.
Non, il n'y a pas forcément de
sensibilité.
Ouais.
Non, mais c'est, par là, je peux faire l'allusion. C'est-à-dire, est-ce que la terre d'Israël, une fois quand il y a les Juifs à l'intérieur, c'est sûr que tu. C'est vrai qu'ils n'ont jamais quitté réellement.
Je parle physiquement, est-ce que c'est une terre qui est particulièrement attirante ? Franchement, honnêtement.
Honnêtement, bah, c'est oui. Comme tu dis. Non, mais dans le monde, t'as pas.
Non, il faut être honnête.
Non, c'est clair, nous on est un attachement. Mais c'est clair.
C'est clair que c'est pas ça.
Le Bora Bora, c'est la merveille.
Enfin, bon. C'est sûr que ce que nous, notre attachement, c'est pas le même.
Bora Bora.
Ça a été la merveille.
C'est clair.
Ça, c'est Bora Bora, c'est les îles, là-bas, c'est ça ?
Oui, Bora Bora.
Hein ?
C'est les
îles, c'est ça ? Bon, t'as des paysages magnifiques. Encore beaucoup plus beaux. Donc, c'est pas ça le but. Le but, simplement, c'est Eretz, c'est que c'est une terre qui correspond à ce qui se passe en haut. Alors, il explique maintenant. On n'a toujours pas répondu à notre question. Pourquoi, on dit que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre que les yeux de Dieu sont rivés dessus depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On a posé une question, on a dit.
On a un peu répondu, non ?
D'accord ? Ah non.
On a dit que c'est la terre qu'il préfère.
J'ai compris, mais on n'a pas répondu pourquoi prendre comme référentiel l'année ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'année ? Pourquoi tu dis pas, c'est une terre que Dieu surveille toujours ?
C'est pareil,
ouais. On n'a pas répondu à cette question encore. On a expliqué la beauté d'Eretz Israël, ça on a commencé à expliquer. On n'a pas expliqué pourquoi on a pris comme référentiel l'année. Quel rapport avec l'année maintenant ? Alors il explique. Il dit Ve'ahara ve'amshach hazo, imitradeshet be'or chadash mamash, bechol shana ve'shana. Cette énergie qui va vitaliser la terre d'Eretz Israël, mais pas que la terre d'Eretz Israël, en vérité le Gan Eden et le Gehinnom. Cette énergie se renouvelle chaque année. Alors ça, c'est encore plus fort ce qu'il va expliquer ici. Il dit comme ça, à Rosh Hashanah.
C'est pour ça qu'on fait...
Chaque année à Rosh Hashanah, l'énergie du monde est renouvelée. Maintenant, la particularité de la terre d'Israël, c'est quoi ? C'est qu'il y a d'autres pays, on va prendre la France par exemple, c'est possible qu'avec l'énergie qu'elle a eue en 2000, elle va tenir jusqu'en 2020. C'est pas un problème. Elle peut tenir avec la même énergie. C'est-à-dire Dieu, il envoie une masse d'énergie, une masse de chayout, une masse de vitalité, une masse de force, une masse de puissance. Et avec ça, selon les calculs d'Akadosh Baruch Hu, t'as des pays qui peuvent tenir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et après 40 ans plus tard, Dieu refait un jugement. Il dit, bon, bah alors on a décidé, selon votre comportement les derniers 40 ans, combien on vous redonne pour les 40 ou les 50 prochaines années. Ça veut dire que le jugement n'est pas fait forcément chaque année pour tous les pays du monde. D'accord ? Alors que au Gan Eden et au Gehinnom, le jugement est renouvelé chaque année. Ils ont une énergie nouvelle chaque année. Et donc c'est pour ça que comme la terre d'Eretz Israël, elle est calquée directement sur le Gan Eden et le Gehinnom, donc elle aussi, chaque année à Rosh Hashanah, elle a une nouvelle énergie qui va venir sur elle. Alors avec ça, le Arizal explique la chose suivante. Il dit avec ça, on explique comment ça se fait et qu'on voit qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des Rechaïm, des grands Rechaïm chez les Goïm qui font beaucoup de mal. Et on voit qu'a priori, Kadosh Baruch Hu ne les punit pas. Alors qu'on voit qu'en Israël, c'est beaucoup plus rapide. En Israël, en tout cas du moins à l'époque du Beth Amikdash, quand on faisait de la Averot, on était puni dans les mois qui suivaient. Comment on explique cette différence ? Il dit, c'est très simple. Il dit, parce que dans les autres pays, t'as des pays qui peuvent être jugés tous les 40, 50, 100, tous les siècles même des fois. Donc t'as un pays qui a été jugé, après on lui a donné de l'énergie, on lui a donné une marche pour vivre, et après, à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut dire, il ferme les yeux, il laisse faire. 50 ans plus tard, il rouvre le dossier du pays, il dit, bon, ce pays, comment il s'est comporté ? Bon, dans ce cas-là, on va décider, il faut le détruire. Ou bien, on va décider, il faut qu'il tombe économiquement. Mais c'est pas chaque année. C'est pour ça que les punitions sont pas forcément instantanées. Des fois, ça peut prendre très longtemps avant que les punitions arrivent. Ça, c'est dans les autres terres, par la terre d'Israël. La chance qu'on a, mais c'est valable aussi pour le mérite, il faut attendre des fois longtemps avant de recevoir, avant qu'un pays reçoive son salaire. Parce que dans les autres pays, ça prend du temps. Dans la terre d'Eretz Israël, on peut avoir la garantie que ça va être fait au moins une fois par an. Le jugement de la terre d'Eretz Israël est fait au moins une fois par an. C'est la raison pour laquelle aussi, en Eretz Israël, dès qu'il manque des pluies, on attend le mois de Cheshvan, arrive le mois de Kislev, vers Hanouka, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qu'on fait en Israël? Tout de suite, on organise des jeûnes. Si on était en France, est-ce qu'on pouvait organiser un jeûne? Non. Parce qu'on te dit, attends, quand on est en France, on va te dire, attends, regarde comment c'était l'année dernière. Regarde comment c'était l'année d'avant. Est-ce que les pluies sont tombées normalement? Oui. Alors on va estimer que peut-être elles ont du retard et ça va arriver. Mais en Israël, on n'est pas comme ça. En Israël, dès qu'il y a du retard, on attend une semaine, deux semaines, et après, ça y est, tout de suite, on instaure des jeûnes. Comme ce qu'ils ont fait d'ailleurs l'année dernière, ils ont fait ça. Oui. C'est quand ils avaient instauré des jeûnes, je ne sais pas si vous vous rappelez. L'année dernière, les grands rabbins d'Israël avaient instauré un jeûne en Israël. Ils avaient instauré un jeûne. Alors, il y a un CDR qui est raconté dans la Gemara Tanit. Pourquoi on ne fait pas comme en dehors d'Eretz Israël? Encore une fois, parce que quand on est en Israël, dès qu'il y a un retard, c'est que c'était prévu. Tu comprends? Dès qu'il y a un retard, c'est que c'est pas normal.
Mais si Hachem, il n'envoie pas la pluie à ce moment-là.
Oui.
C'est Hachem qui décide de ça.
Non, je compris. Hachem, il y a deux choses.
Quand les grands rabbins, aussi grands soient-ils,
oui.
ils disent, c'est comme s'ils quelque part, ils jugeaient le retard de Hachem.
Non, c'est parce que quand Akadosh Baruch Hu nous envoie pas la pluie, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse teshuva. Donc, quand on fait un jeûne, on fait teshuva. Mais la question que je suis en train de dire, c'est comment ça se fait qu'en Eretz Israël, dès qu'il y a un problème, tout de suite on dit « Ah, ça y est, il faut faire teshuva, c'est Dieu qui nous... » Peut-être c'est rien, peut-être c'est un phénomène de la nature. D'accord, peut-être c'est un phénomène de la nature, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'excites, c'est rien du tout, c'est pas un problème. C'est des angoissés, il te dit pas du tout. Il te dit « C'est pas par hasard. » Il te dit parce qu'en vérité, quand t'es en dehors d'Eretz Israël, quand t'as un problème, on peut dire que bon, la nature a pris un peu de retard, c'est pas la fin du monde, c'est pas forcément que Dieu veut nous punir. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous surveiller. Mais c'est pas aussi direct et aussi, on va dire, clair qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, dès qu'il y a un problème qui arrive, tu sais exactement que c'est Dieu qui te l'envoie tout de suite. En dehors d'Eretz Israël, c'est pas aussi clair que ça. Pourquoi? C'est ce qu'on vient d'expliquer. D'accord? Parce que, je répète, en dehors d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu peut envoyer une énergie sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que même quand la pluie prend du temps à arriver, c'est pas la fin du monde. On va attendre un petit peu, si vraiment elle a beaucoup de retard, là on va se poser des questions. Parce que c'est une machine qui a été lancée déjà pour plusieurs années. Mais en Eretz Israël, la machine est relancée chaque année. Donc dès qu'elle a un petit retard, on sait que s'il a un retard, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut te faire passer un message qui attend que tu répares quelque chose. Et elle avancera pas tant que tu répares. Tant que tu répareras pas. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, on est beaucoup plus strict. Et en Eretz Israël, dès qu'il y a un petit problème, tout de suite, le rabbin dit, hop, ça y est, on va faire tes choix. D'accord? Ça veut dire qu'en Israël, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, des fois, les choses peuvent durer comme ça, pendant des années, des siècles, sans que ça bouge, sans que c'est toujours stable. En Eretz Israël, dès qu'il y a un problème, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a envoyé. Et voilà la raison pour laquelle la Torah te dit que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre que Dieu surveille depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les autres pays, il n'y a pas cette notion de début et fin d'année. Les autres pays, Akadosh Baruch Hu, c'est une période. Alors après, selon le comportement des hommes, Akadosh Baruch Hu va décider comment il va nous donner. C'est-à-dire, par exemple, imaginez-vous que Dieu a décidé, par exemple, qu'il doit envoyer, je sais pas moi, il doit envoyer à la ville de Paris 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros. D'accord? Voilà, il doit envoyer à la ville de Paris, à la ville de Paris, il doit envoyer 100 milliards d'euros. Il a décidé, pour l'année, par année. D'accord? Maintenant, en 2012, on voit que le budget, les gens, ils ont du mal à travailler, ça marche pas comme avant. On va pas tout de suite instaurer un jeûne. Parce qu'on va se dire peut-être que ça prend du temps. Par rapport à notre comportement, peut-être que ça prend un peu de temps, mais on va recevoir notre budget, c'est pas un problème. En terre d'Eretz Israël, c'est pas comme ça. En terre d'Eretz Israël, on sait qu'on vient d'être jugé. C'est-à-dire, dès qu'on arrive au mois de Kislev, on sait qu'on a été jugé il y a 2 mois. Et on voit que si ça ne vient pas comme il faut, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus directes là-bas. On dit que là-bas, en Eretz Israël, on a beaucoup plus de facilité à voir comment Akadosh Baruch Hu communique avec nous. Donc vous voyez que ça, il nous explique que c'est déjà depuis la création du monde. Depuis la création du monde, c'est comme ça. La terre d'Eretz Israël, c'est une terre qu'Akadosh Baruch Hu, va juger chaque année. Maintenant, ça ne l'explique pas ici, mais je voulais vous l'expliquer. Le Baal Shem Tov explique, il pousse un peu plus loin. Il dit qu'en vérité, chaque juif est appelé Eretz, peu importe où il se trouve. On peut se trouver en France, on peut se trouver où on se trouve, on s'appellera toujours Eretz. Pourquoi Eretz, rappelez-vous, Eretz en hébreu, ça veut dire la terre, mais ça veut dire aussi la volonté. Et on a dit que c'est quoi la volonté? Ça veut dire que, en vérité, chaque année, on renouvelle l'énergie. Baal Shem Tov dit comme ça. Il dit que c'est la même chose, c'est la différence qu'il y a entre un juif et un non-juif. Un non-juif, Akadosh Baruch Hu, en général, il lui trace sa vie. Et il le juge pas sur une année, il le juge en général sur longtemps, sur plusieurs années. Donc, dès qu'il, même s'il a une année qui ne tourne pas exactement comme il voulait, c'est pas forcément que Dieu l'a puni. Parce que des fois, il y a des choses qui prennent du temps, et des fois, des choses qu'il faut voir à long terme. C'est pas forcément que Dieu l'a puni. Parce qu'un juge n'est pas jugé chaque année. Et des fois, il peut être jugé sur des longues périodes, à long terme. Donc, on ne peut pas juger chaque année. Mais il dit, un juif, il est à l'image de la terre d'Eretz Israël, qui, elle, est à l'image du Gan Eden, et un juif est jugé chaque année. C'est pour ça qu'un juif, dès que les choses ne vont pas comme il faut, dès qu'il a un problème de Parnassa, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça y est, c'est Dieu qui veut que je fasse tes chouvins. Ça, on ne voit pas chez les goyim. Dès que tu as un goy, ça y est. Dès qu'il y a la crise économique, on dit, ça y est, c'est Dieu qui veut qu'on fasse tes chouvins. On ne le dit pas. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce que chez eux, ce n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'ils ont un peu de mal dans les affaires que ça veut dire que Dieu veut qu'ils fassent tes chouvins. Des fois, le jugement était à long terme, sur plusieurs années. Donc, c'est possible que Dieu a un mouvement ou une démarche qu'il a choisi, qu'en vérité, sur 10, 20, 30 ans, peut-être que c'est pour leur bien. Donc, c'est compliqué à savoir. C'est pas forcément que c'est une punition. Quand il y a une crise économique en France, c'est pas forcément que c'est une punition de la part de Dieu. Mais quand on est en Eretz Israël, ou bien quand ça concerne directement un juif qui est à l'image d'Eretz Israël, donc, dès qu'il voit qu'il a une épreuve, il peut être sûr que c'est que Akadosh Baruch Hu l'a ciblé directement. Pourquoi? Parce que le juif est jugé chaque année. Car vous voyez que ça veut dire que là, on va être très fort ce qu'il explique. Il te dit qu'en vérité, le juif, depuis la création du monde, il est déjà différent. Donc en vérité, c'est un trio. On a le Gan Eden, la terre d'Israël et le juif. Donc le juif aime aller en Israël, d'accord? Parce que là-bas, la terre d'Eret Israël est à son image. Enfin, c'est lui qui a l'image de la terre d'Eret Israël. Il est jugé chaque année. Ça veut dire qu'elle se renouvelle chaque année. Et la terre d'Eret Israël elle-même est à l'image de, du Gan Eden. Maintenant, hein, ce qu'il explique aussi, ça l'explique pas ici, mais je voulais vous le dire aussi. On dit que des fois, un juif, quand il a envie de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, on a plus de facilité à communiquer avec Akadosh Baruch Hu en Israël. Pourquoi? Comment ça se fait? Maintenant, on comprend pourquoi. Parce qu'en Israël, la terre d'Eret Israël partage la même structure que nous. C'est la même structure. C'est-à-dire que c'est une structure qui est jugée chaque année, que dès qu'il y a un problème, on sait que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est exactement la même structure que nous. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus facile de communiquer avec Akadosh Baruch Hu en Israël que dans le reste du monde. Voilà pourquoi on est attiré d'aller en Eret Israël. Ça n'a rien à voir avec une attirance physique. D'accord? C'est bon? Mm-hmm. Je repasse un coup ou c'est bon?
C'est bon.
D'accord. Allez, bon. C'est bon, Yves?
Oui.
Ah, t'es content d'aller en Israël, hein?
Toujours.
La glace en Israël, pas la même glace qu'à Paris.
Côté pratique, voilà. Pourquoi en Israël plus qu'ailleurs déjà en vacances? Mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses. Je sais pas, d'être en Israël,
c'est très fort ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle en Israël, dès qu'il y a un truc qui va pas, tous ils ont dit, ah, c'est Dieu qui nous éprouve. Dit, attends, doucement, ouais, ça va, vas-y, mollo, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas. Attends un petit peu, quelques mois ou moins, quelques années, de voir où ça va. En Israël, on n'attend pas. Parce qu'en Israël, on sait qu'on est jugé chaque année. Et si ça ne va pas maintenant, c'est qu'il y a un problème. On est jugé année par année. D'accord?
Et revoir autant de juifs dans un pays, ça fait chaud.
Ah, c'est génial.
On continue. Donc. Alors, je lis dans les mots. On va reprendre. Donc, je suis à la page Koufraf toujours. Et trois lignes avant la fin. Ve'ahara ve'amshachazo. Donc, cette énergie qui vient sur la terre d'Eret Israël. Et sur le juif, comme ce qu'on a pu expliquer, imitra deshet beor chadash mamash, elle se renouvelle par une nouvelle lumière, une nouvelle énergie, bechol shana veshana, chaque année, d'accord, chaque année, ki hu itbarer vechochmato echad betachlit ayichud venikra beshem or ensov baruchu, akadosh baruchu est infini. Et donc chaque année, il y a une nouvelle énergie qui vient sur la terre d'Eretz Israël qui n'a rien à voir avec l'énergie qu'il y avait avant. C'est quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est-à-dire même si l'année dernière c'était ok pour moi, c'est pas pour autant que cette année ce sera ok pour moi aussi. Chaque année on est jugé, c'est la raison pour laquelle chaque année on doit faire teshuva, chaque année on a Rosh Hashanah, parce que c'est d'année en année. Alors ça veut dire oui, mais attends, la terre d'Eretz Israël, ça fait déjà 5772 ans. Et tu me dis que chaque année, il y a une nouvelle énergie qui vient sur la terre d'Eretz Israël, une énergie qui n'a jamais existé. Mais combien d'énergie il a, Kadosh Baruch Hu? Et tu dis, Kadosh Baruch Hu est infini. Chaque année, Kadosh Baruch Hu envoie une nouvelle énergie qui n'a jamais existé dans le monde. Ça, il envoie dans la terre d'Eretz Israël. Peut-être, si on continue un petit peu cette logique, c'est peut-être pour ça qu'on dit, dans un autre endroit, j'ai lu qu'en Israël, les Talmidei Chachamim arrivent plus facilement à trouver des Chidushim, à trouver des idées. D'ailleurs, pas que les Talmidei Chachamim, même dans le monde des high-tech, etc. On arrive plus facilement à trouver des idées en Israël qu'ailleurs. Comment ça se fait? C'est vrai. On voit concrètement, ouais, c'est la réalité. Pourquoi ? D'accord ? Étudie.
Autant de brevets, autant de...
En tout cas, dans la Torah, c'est comme ça. C'est écrit dans la Torah. La Torah, c'est écrit que l'ère d'Eretz Israël rend intelligent. Comment c'est possible ? Comme ça, c'est écrit. C'est écrit que la Gemara dit « Avira d'Eretz Israël, Markim ». L'ère d'Eretz Israël rend intelligent. Pourquoi ?
Il nous ramènera un peu d'air dans un bocal.
Tu sais, c'est pas des blagues. Il y avait des gens à l'époque. À l'époque, pas tout le monde pouvait aller en Eretz Israël. Pas tout le monde pouvait faire le voyage. Il y avait des gens qui demandaient à d'autres personnes, ils leur disaient, est-ce que tu peux m'amener de la terre et de l'air d'Eretz Israël ?
Moi, je me souviens, gamin, ils vendaient des conserves comme ça, avec le drapeau d'Israël, l'air d'Israël.
Non, c'est des arnaques.
Oui, après, tu vends ce que tu veux.
Des conserves d'air d'Israël, ils vendaient ça.
Fantastique.
Il paraît qu'une fois sur eBay, il y avait quelqu'un qui a vendu, je crois, de l'air de l'espace, un truc comme ça, enfin, du pipeau, quoi. Ils vendaient ça.
Ils vendaient du vent, c'est quoi de
dire ? Ils vendaient du vent, ouais. Ils vendaient, je vois, vous pouvez, il y avait un moment, je sais plus s'ils vendent toujours, ils vendaient de l'air, de l'espace, un truc comme ça, où il y en a un autre, ils vendaient un morceau de la lune, enfin des trucs, abracadabra.
Mais ce météore, ils peuvent ?
C'est ?
Des morceaux de météore, peut-être.
Oui, peut-être. Mmh. Après, il peut te mettre n'importe quoi, il peut dire
ouais, des morceaux de météore.
Je peux casser,
je continue. Donc, il dit qu'en vérité, la terre des restes d'Israël, c'est une terre qui est, on a dit, c'est une terre qui est infini. Chaque année. Comment ça se fait que là-bas on arrive à développer des chidushim de Torah plus facilement? On découvre des nouvelles choses chaque année. Parce que chaque année, il y a une nouvelle énergie qui vient sur la terre d'Israël. Chaque année à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu amène une nouvelle énergie. Notre seul devoir, c'est quoi? C'est d'utiliser cette énergie pour essayer de nous découvrir de nouvelles choses. Découvrir de nouvelles choses dans la Torah, découvrir de nouvelles choses dans les affaires, faire de nouvelles choses. Dans le monde en général, dans un pays ne change pas chaque année. On voit dans un pays, il a une structure, il a un style, et en général, ça va rester comme ça pendant plusieurs dizaines d'années, pendant au moins plusieurs siècles, il y a un style. Ça va prendre du temps pour que ça change, ça prend beaucoup de temps. En Israël, en l'espace d'un an, tout peut changer. Parce qu'en Israël, chaque année, c'est renouvelé. Chaque année, l'énergie est renouvelée. D'accord ? Donc, avec ça, il veut nous montrer que la terre d'Eretz Israël est complètement différente des autres terres. Ça n'a rien à voir avec les autres terres. C'est une terre qui n'a rien à voir, puisque chaque année, elle peut changer, chaque année, elle est renouvelée, et le juif est aussi comme ça. Je continue maintenant dans les mots. Troisième ligne. Ubechol shana veshana. Chaque année. Yored ou meir mechorma ilaha. Chaque année va descendre donc de la sagesse de Dieu, ça veut dire donc de l'énergie de Dieu. Or chadash ou mechudash, une nouvelle lumière. Shelo ayam meir adain meolam leeretz aeliona. Une nouvelle lumière qui n'a jamais existé. Kik or kol shana veshana mistal ek leshor shom. Bechol erev rosh hashana. Maintenant, il explique la structure concrètement, comment ça se passe. Ça veut dire quoi ? Tu dis comme ça. Tu dis chaque année, le soir de Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, dès que Rosh Hashanah rentre, l'énergie qui a fait vivre le monde, qui a fait vivre surtout la terre d'Eretz Israël jusqu'à ce moment-là, elle remonte chez Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est une question qui est posée dans les écrits du Harizal. Le Harizal, il pose la question, il dit, et cette énergie, elle nous est rendue quand ? Elle dit, le lendemain, au moment où on sonne le chauffard, pourquoi on sonne le chauffard, nous dit le Midrash ? Quand on sonne le chauffard, on éveille la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu décide de reconduire le contrat encore un an pour Israël. D'accord ? Alors l'Arizal pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe pendant l'intervalle entre eux ? Imaginons que par exemple Rosh Hashanah, c'est, voilà, Rosh Hashanah, cette année, je crois que ce sera lundi soir. D'accord ?
Oui.
Donc,
Dimanche soir. Ah non, peut-être.
Dimanche soir, on est. Bon, alors lundi soir. De mémoire, c'est lundi soir.
Ouais, lundi soir, tu as raison.
Donc, imaginons que Rosh Hashanah, par exemple, lundi soir. Donc, tu me dis lundi soir, dès que Rosh Hashanah rentre, qu'est-ce qui se passe ? L'énergie qui a fait vivre la terre d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu la reprend. Et à quel moment il la rend ? Ah, justement, à quel moment il la rend ? Le lendemain, lorsqu'on va sonner le chauffard, Akadosh Baruch Hu va nous donner une nouvelle énergie. C'est comme un. Voilà, il fait une vidange moteur. Voilà, il fait une vidange et il te met une nouvelle huile. C'est bien. C'est-à-dire que les autres, ils sont avec les mêmes huiles, ça fait 40 ans, 50 ans, tu comprends ? Nous, on a un moteur retapé à neuf chaque année.
Ouais,
elle est belle.
Une bonne huile, quand même,
d'accord ? Ouais, l'huile, elle peut tenir. Ouais. Elle tient. Mais nous, on a une huile nouvelle chaque année. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe entre la période de transition ? Alors, c'est une question qu'on pose le Harizal. Il y a beaucoup qui s'arrêtent sur cette question. Et une des réponses qu'il donne, il dit qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, quand il enlève l'énergie, il y a ce qu'on appelle le réchimou. Réchimou, ça veut dire les traces de l'énergie qui restait d'avant, les résidus. Et on tient avec les résidus Avec les résidus, c'est comme on aurait dit aujourd'hui
le fond du truc.
Le fond du truc, ou bien c'est comme on dit aujourd'hui même quand on enlève la prise.
C'est dans les tuyaux, quoi.
Quand on enlève la prise, il y a toujours un peu de courant qui est encore dans le circuit. D'accord. Donc en vérité, pendant quelques heures, on tient avec le courant qui est dans le circuit. Mais il dit le Arizal comme ça, il te dit, si il n'y avait pas au moins un juif qui sonnait le chauffard dans le monde, ça s'arrête. Eh ben le monde, ça s'arrêterait de fonctionner. Surtout la terre d'Israël. Parce que le reste de l'énergie qui reste dans les tuyaux, ça peut tenir quelques heures.
En même temps, on peut l'expliquer différemment avec le cycle. Comme la Terre, elle tourne. Ça peut être que très peu de temps. S'il y a d'autres juifs qui commencent à faire l'autre fila de Rosh Hashanah...
Avec le décalage horaire.
C'est particulièrement sur la Terre d'Israël.
Donc c'est que les juifs présents dans la Terre d'Israël.
Non, je pas dit ça.
Non, parce que, voilà, par exemple, on peut expliquer aussi, je ne sais pas si on peut expliquer, mais en tous les cas, avec le fait que justement que cet intervalle de 24 heures qu'il y a dans le fuseau horaire, fait qu'il n'y a pratiquement
pas d'interruption. Si on juste que le Baal Shem Tov a dit tout à l'heure, a dit que la même manière qu'on dit ça sur la terre d'Israël, on dit ça aussi sur chaque juif.
Ouais, donc
que chaque juif est comme ça. Ça veut dire quoi, hein? Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque juif, chaque personne du peuple juif, en vérité, depuis lundi soir jusqu'à mardi matin lorsqu'on sonne le chauffard, il n'a aucune manière de tenir. Grâce à quoi il tient? Grâce au reste de l'énergie.
D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Chaque juif a un...
le même problème.
Individuellement.
D'accord, comment ça?
Et non pas la globalité.
Non.
D'accord.
Chaque juif individuellement. Donc David, avec nous?
Donc ça, ça ne change pas. Le fuseau horaire ne change pas.
Non. D'accord. Il y a aussi dans un... je ne l'ai pas ici, le... Shulchan Aruch Admor HaZaken. Attends, je vais voir si j'ai retrouvé ici. Dans Shulchan Aruch Admor HaZaken, il pose la question, il dit... Comment c'est aujourd'hui que le monde... Attends, une seconde. Je sais où c'est, mais je ne sais pas s'ils l'ont mis ici. Voilà. Alaha. Shrana Ocharav. Orachaim. Ashkamat Aboker. Eh non, ils ne l'ont pas mis. Non, ils ne l'ont pas mis. Bon, c'est pas grave. C'est ma doura, Kama.
T'as tout là-dessus, hein?
Non, j'ai pas tout.
Là où?
Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Pardon. Non, je l'ai pas. Allez, c'est pas grave. On continue. Donc, il explique là-bas, il pose la question. Il pose la question là-bas à Admor HaZaken. Il dit comment. Je me rappelle plus exactement de la réponse. Il pose la question. Il dit étant donné qu'on sait aujourd'hui que quand on rentre. Il parle là-bas de Yom Kippour. Quand on rentre Yom Kippour dans un endroit. Dans un autre endroit, peut-être Yom Kippour est déjà sorti. D'accord? On sait par rapport aujourd'hui au monde. Alors, il dit concrètement.
Ça, c'est pas sorti, c'est pas possible.
Alors, il pose la question, il dit concrètement, dans le ciel, combien de temps dure Yom Kippour?
Une heure? Ah, même pas.
Combien de temps il dure?
En réalité, oui, si tu enlèves les. En réalité, si tu enlèves pas les.
Non, il donne une réponse concrète, il donne une réponse géographique. Non.
Mais non.
Ah oui, il donne une réponse, mais je ne me rappelle plus la réponse. Il donne une réponse, il donne un machal, etc., mais je n'ai plus le. Bon.
Oui, c'est ça, c'est 24 heures de décalage. Mais en réalité, 25 ans, et en plus, c'est une barrière qu'on a.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yom Kippour dure 50 heures
en réalité, chaque truc aurait duré 24 heures, c'est parce qu'on ne sait pas exactement quand.
J'ai compris. Ça veut dire qu'en vérité, Yom Kippour en haut, il dure 50 heures?
Il ne dure pas du tout.
Pourquoi il ne dure pas du tout?
Le début et la fin, c'est que.
Alors, comment c'est possible alors? Comment ça marche?
Comment pas du tout?
Bon, c'est.
Déjà là-haut, déjà, on n'est pas au référentiel temps.
J'ai compris, mais moi maintenant, ça veut dire. Qu'est-ce que doit penser maintenant un juif australien quand nous on fait Yom Kippour et lui il a déjà fini son Kippour? C'est quand Kippour?
C'est bon, c'est sa référence à lui ou si on a affaire des
autres? J'ai compris, mais on a un seul Dieu, on a une référence, on a un Gan Eden pour tout le monde.
On est en décalage horaire.
Et quoi, décalage horaire? Là-bas en haut, il y a.
C'est pour ça qu'il y a peut-être une heure de plus.
Forcément un décalage.
Mais imagine-toi, mets-toi dans la tête du juif australien. Il dit voilà, le monde entier est en train maintenant de faire Yom Kippour.
Hier, je pensais la même chose. Pendant le jeûne, je regardais, on finissait ici, j'avais faim, et je disais, en Israël, ils sont en train de manger.
Non, ça c'est autre chose.
Est-ce que ça me
donne non, ça encore autre chose.
Ça va pas donner autre.
C'est une téléportation.
Bon, on continue.
Ouais, il y en a qui ont compris, ils voyagent le matin, et ils arrivent le soir, et ils font un jeûne plus court.
Bah tu sais...
Je suis pas sûr que ça soit... Je regarde aussi.
Alors, c'est un droit ou pas?
J'ai lu ça, j'ai lu une chouva, j'ai lu une responsable qui parle de ça.
Alors justement, c'est quoi là?
Il dit, qu'est-ce qu'on fait une personne qui a voyagé? Et que à cause de ça, il va avoir un jeûne plus court ou plus long. D'accord. Normalement, dans un jeûne, on se calque toujours sur
l'heure de départ.
Non, sur l'endroit où il se trouve.
D'accord.
Mais il dit, il y a certains avis qui pensent que le jeûne de Tisha B'Av doit durer 26 heures.
Ah.
Donc d'après eux, il faudrait rajouter.
Oui.
Et la décision, c'est laquelle?
Enfin, 26 heures, je veux dire.
25 heures, quoi.
25 heures, quelque chose.
Quoi, celui qui commence ici et qui finit et qui voyage?
Chaque fois, on dit qu'on suit l'endroit où on arrive.
Ah bon?
Ouais. Mais je me rappelle quand on allait à New York à l'époque, quand j'étais à l'Ishiva, on allait à New York.
Je posais la question de New York, justement. Quand on part, par exemple, il n'est pas Shabbat. Quand on part d'ici, par exemple, il est midi. On va à New York.
Ouais. Le
Shabbat rentre à Paris à 4h.
On arrive à midi.
Pas de problème.
Il n'y a pas de problème. On n'a pas profané le Shabbat.
Non, parce qu'il faut suivre toujours l'endroit local.
L'endroit local.
Et localement, l'endroit où on est, c'est pas un
temps.
C'est bon, pas de problème.
Il n'est pas rentré le Shabbat.
Non, mais le jeûne, c'est différent. Parce que là, on a déjà entamé quelque chose.
Ouais.
On suit toujours l'heure locale.
Là, on a entamé quelque chose. Ah,
ouais. Non, mais t'as compris sa question pour l'avion.
Bien sûr.
Si tu prends un avion à 2h de l'après-midi.
Ouais.
Bon, on peut pas, mais bon, non. Mais si tu prends un avion à 2h de l'après-midi. Et concrètement, 3 heures plus tard, c'est en hiver, c'est déjà Shabbat.
C'est déjà Shabbat.
D'accord.
Mais toi, tu t'en fous.
Pas grave, tu suis dans le local.
Bah oui, le soir, il s'est pas couché, ni quoi que ce soit.
Ok, on va continuer.
Shabbat, il est jamais rentré.
Je fais comme ça,
il est jamais rentré. Bah oui.
Après, tu reprends l'avion.
Pourquoi il a fait Shabbat, alors, l'astronaute, là?
Ilan Ramon?
Ouais.
Parce que c'est écrit comme ça, c'est écrit que quand on est dans un endroit dans lequel le soleil ne se couche pas, on doit se calquer sur Jérusalem.
Il y a toujours une... T'inquiète pas, tu peux pas te sauver.
Ça, c'est écrit.
Oui, tu sais qu'il s'est calqué contre sur Jérusalem.
Mais qui veut se sauver sur la lune, il ne peut pas faire Shabbat.
Je sais pas pourquoi.
On lui a trouvé une halakha.
Il y en a qui disent aussi, mais ça, c'est compliqué. Il y en a qui disent aussi que dans les pays dans lesquels... Il y a des pays dans lesquels le soleil ne se couche pas. Le soleil ne se couche pas.
En
Islande, il se couche au moins pour quelques
non,
minutes.
Non, au nord de l'Islande, non.
Pas du tout.
Je crois pas.
Non, c'est peut-être pas aussi haut que ça. L'Islande, plus haut, il faut remonter.
Non, non, même en Norvège, ils ont... Au nord-nord de Norvège, ils ont une heure.
Une heure, ça va.
Alors qu'ils ont une heure de Shabbat.
Pourquoi une heure de Shabbat?
Parce que s'il y a des jours où ils ont une heure de nuit,
non, le Shabbat,
il faut attendre la nuit suivante. Qu'est-ce qu'il y a?
Attendre la nuit suivante, oui.
Ils auraient bien un cycle de 24 heures, peu importe la nuit, quoi qu'il arrive.
S'ils ont une heure de nuit.
Mais 23 heures de jour et une heure de nuit. Alors Shabbat, il dure quoi? Il dure 25 heures. Dès que le cycle commence.
La question se pose si le soleil ne couche pas.
Voilà. C'est ça.
Alors, mais quoi, c'est la tombée des...
Mais ça change quoi? Sur quelque chose,
sur Jérusalem. Alors, continue.
Il va avoir 2 heures de jour, 2 heures de nuit.
Shabbat, il rentrerait à 22h.
Ouais.
Le lendemain, ça sera à 23h, ça sera le Shabbat, vous avez changé. Même si elle fait une demi-heure la nuit.
Ok, alors je continue. Maintenant, il dit comme ça. Il dit que de la même manière qu'on a dit que chaque année, on est jugé à Rosh Hashanah, et qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu envoie, on a dit une nouvelle énergie sur le monde, une énergie qui n'a jamais existé. C'est la raison pour laquelle chaque année a sa particularité et chaque année a ses idées, particulièrement pour Israël. Alors que pour les autres nations, on a expliqué que c'est un jugement qui peut être étalé sur plusieurs années, des fois même plusieurs dizaines d'années. Alors que chez un juif, chaque année, c'est une nouvelle énergie. Donc il dit maintenant, donc on a en vérité, c'est comme ça pour le Gan Eden, c'est comme ça pour la terre d'Israël et c'est comme ça pour le juif. Chaque année, c'est quelque chose de nouveau. Donc on va dire maintenant dans les mots ce que je vous expliquais. Alors, je suis maintenant à la ligne qui commence par A Eliona, où je me suis arrêté. Qui or kol shana veshana, mistalek le shorsho bechol erev rosh hashana. La lumière, l'énergie de chaque année, retourne à sa source chaque veille de Rosh Hashana, kesheachodesh mitkasebo. Dès que le jour donc de Rosh Hashana s'enclenche, donc cette année par exemple lundi soir, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on a dit l'énergie retourne chez Kadosh Baruch Hu. Ve'achar kach, et ensuite, aliedet kiat shofar, par le son du shofar, ve'at filot, et les prières, Nimshar Or Hadash Elyon, Miprina Elyona Yoter, Sheve Madrigat Rochmaïla, va venir une nouvelle énergie qui vient d'un niveau encore plus haut, Lahir, la Aret Selyona Veladarim Alea, Mkol Aolamot Elyoni Vetartonim Amekalu Chavitam Imena, Dainu, Mina Or Ensov Vauchu Verochmato, Amelu Vajba, Kedirtit Kimcha Mekochaim Baocha Nire Or.
C'est les 2 jours de Rosh Hashanah?
Que le premier jour.
D'accord. On dit que c'est un seul jour, mais
c'est surtout le premier jour.
D'accord.
C'est le premier jour. C'est la raison pour laquelle on se souhaite Shana Tova, seulement le premier, enfin le texte de l'Shana Tova Tiketa Vetechatem, on se le souhaite seulement le premier soir de Rosh Hashanah.
D'accord.
Parce qu'après, c'est déjà trop tard. On est jugé le premier soir de Rosh Hashanah. Après, c'est fini. Après, on continue à faire les tefillot, etc.
Premier soir, c'est pas juste l'entrée.
Premier soir, toute la nuit de Rosh Hashanah, c'est là que...
C'est le premier soir, c'est l'entrée, donc...
La première nuit de Rosh Hashanah.
D'accord.
Première nuit de Rosh Hashanah, c'est là qu'on est jugé.
Première nuit.
Okay. C'est là qu'on est jugé, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu décide qu'est-ce que je fais le lendemain. Qu'est-ce que je fais demain lorsqu'ils vont sonner le shofar? Le lendemain, on sonne le shofar, et le lendemain, automatiquement, Akadosh Baruch Hu envoie tout ça. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe si le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat?
C'est déjà arrivé.
Bien sûr, c'est déjà arrivé.
Bien sûr.
Si. C'est ce qui se passe
aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé cette année.
Qu'est-ce qui se passe cette année?
Non, l'année dernière. Enfin, ça fait pas longtemps.
Oui, oui.
D'accord.
Qu'est-ce qui se passe pourquoi?
Si, le premier jour.
On ne sonne pas le chauffard.
On ne sonne pas le chauffard. Alors l'énergie.
Ah oui.
Comment elle avait l'énergie?
Hein, ben, il y a un peu plus
on
de résidus, c'est tout.
Shabbat, on a
une... Il y a un peu plus de résidus.
Là, c'est expliqué comme ça. C'est écrit Shabbat, qu'une année comme ça, hein, qui, c'est une année comme ça en vérité, c'est écrit que c'est à Kadosh Baruch Hu qui sonne le chauffard à notre place. Et ça veut dire que cette année-là, hein, c'est une bracha qui vient pas par Israël, mais par, directement par Kadosh Baruch Hu.
C'est encore mieux.
Ah, c'est le top.
On devrait fixer le calendrier comme ça.
Avant.
Elle est belle, hein, ouais. Et c'est pour ça que le rabbi, chaque année, dès que c'était une année dans laquelle le premier jour de Hashanah était Shabbat, il disait, ça, c'est une année qui sera préparée et mise en orbite, si on peut dire ça comme ça, par Akadash Baruch Hu. Je sais pas, Youssef est venu dans ce cas la prochaine. En tout cas, le prochain Hashanah qui tombe Shabbat.
Les dernières années, c'était comme ça.
Hein, bon, on verra après.
On verra. Peut-être que
oui,
ce sera sur Hashanah.
Les dernières années.
Hein, peut-être celui-là, il tombera pas lundi, il va savoir.
Alors, maintenant, il continue. Il dit... Je vais sauter quelques lignes, on prend après la parenthèse. Ubi fraté, juste après la parenthèse, vous avez ? Très bien. Ubi fraté pratiyut. Maintenant, si on rentre dans les détails, celui qui lit ça, il pourrait se dire, bon, bah dans ce cas-là, c'est-à-dire on est jugé une fois par an, alors on va faire les malins toute l'année, on va faire ce qu'on veut au mois d'août, au mois de juillet, etc. Dès qu'on arrivera au mois d'Eloul, à la fin, on fera teshuvah, on sera bien jugé, et tout ira bien, on est jugé une fois par an. Donc on fait ce qu'on veut toute l'année, d'accord ? Et... À la fin de l'année, on fait teshuvah, on se range, d'accord, on décide de...
Et on recommence après.
Et on recommence après.
On est jugé sur toute l'année.
Alors, là, en vérité, il répond à une autre question. Il y a une marloquette dans la Gemara. Dans un endroit, c'est écrit qu'on est jugé à Rosh Hashanah, comme ce qu'on dit toujours, on est jugé à Rosh Hashanah. Dans un autre endroit, c'est écrit qu'on est jugé tous les jours.
Sur toute l'année.
Alors, comment c'est possible? Est-ce qu'on est jugé tous les jours, ou est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah, D'ailleurs, dans le texte de la Mida, à un certain moment, on demande à Kadosh Baruch Hu de bien nous juger. Mais pourtant, c'est pas Rosh Hashanah. Comment c'est expliqué? C'est expliqué qu'en vérité, on est jugé aussi tous les jours. Alors, comment tu m'as dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah, comment tu me dis qu'on est jugé tous les jours? On avait expliqué comme ça. Il dit en vérité, la différence est la suivante. À Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il va décider la masse générale d'énergie qu'il va avoir pour l'année. Par exemple, si on parle de la Parnassa. À Kadosh Baruch Hu, il va décider, il va dire, celui-là, cette année, je lui envoie 80 000 euros. Voilà, j'ai décidé, je lui envoie cette année 80 000 euros.
Beaucoup.
Pas mal. Maintenant, Akadash Baruch Hu, il n'a pas décidé... D'accord. Akadash Baruch Hu, il n'a pas décidé... Quand il va te les envoyer? Comment il va te les envoyer? Dans quelle structure il va te les envoyer? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Est-ce que tu vas payer un réparateur de machines à laver? Ou est-ce que tu vas payer des vacances? Ça, Akadash Baruch Hu...
Tu vas payer le percepteur?
Ou alors, est-ce que c'est...
Qui tu vas payer avec?
Ou alors, c'est ça, une machine à laver qui ne tombe pas en panne et qui devrait être
alors,
en
panne. Alors ça, c'est décidé tous les jours.
Donc, ça aussi.
D'après
ce que tu ne sais pas,
on n'a pas libre
tu ne sais pas non, que tu as gagné 2000 euros.
Je parle de la Parnassa maintenant.
Oui, la Parnassa, je vais te dire.
À Kadosh Baruch Hu, chaque année à Rosh Hashanah, il décide la masse de Parnassa qu'on aura.
D'accord, je m'entends.
D'accord, la masse de Bracha qu'on aura. Il décide une certaine masse. Mais il décide pas qu'est-ce qui va se passer tous les jours. C'est la même chose pour Eretz Israël. À Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il décide pas qu'est-ce qui va se passer chaque jour donné en Eretz Israël. Parce que sinon, ça sert à rien de jeûner. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que le mois de Kislev, il n'y aura pas de pluie, ça sert à rien de, hein, c'est ta question tout à l'heure.
Ouais.
Ça sert à rien de prier. Dieu a décidé à Rosh Hashanah qu'il n'y aura pas. Non, la réponse est non.
Non, et pour la pluie, il décide combien il va être disponible et après, il décide
voilà.
Combien
il va faire. La Gemara a dit là-bas, elle dit qu'en vérité, qu'est-ce qui peut se passer? Akadosh Baruch Hu, il peut décider que cette année, il va tomber tant et tant de pluie en Israël. Mais par contre, ce qu'ils peuvent faire à Kadosh Baruch Hu, c'est que cette pluie peut te l'envoyer en été. Ah, le tourisme, il se casse la figure et ça sert à rien qu'est-ce qu'on fait avec en été. Mais il dit, voilà, j'ai décidé, j'ai envoyé. Donc on est jugé tous les jours pour savoir quand à Kadosh Baruch Hu va envoyer cette pluie. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire?
D'accord.
Ça veut dire comme ça, je répète. Dans le reste du monde, on est jugé tous les combien? On sait pas en vérité. 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, un siècle, deux siècles, c'est très variable. Il y a des pays que... Ils peuvent rester comme ça pendant des siècles et ils vivent toujours sur le même modèle et ça tombe toujours parce que eux aussi ils tombent toujours sur le même tant qu'il y a personne qui fait appel, ça continue à tourner. Ça c'est chez les goyim. Chez nous, le Ham Israël et Eretz Israël et chaque juif, c'est pas comme ça. Chaque année on est rejugé. Chaque année Kadosh Baruch Hu, peu importe ce qui s'est passé l'année dernière, il dit voilà ce que tu auras cette année. Mais pas seulement chaque année. Comme ce qu'il va dire tout de suite ici, chaque jour on est jugé. Mais quelle est la différence? Chaque année, on est jugé sur la masse qu'on aura pendant l'année. Et chaque jour, on est jugé comment va se répartir cette masse sur la journée. Combien de pourcents de cette masse je vais prendre aujourd'hui? D'accord ? Et on ne dépassera jamais la masse qui était décidée à l'année. Par contre, ce qu'on peut négocier avec Akadosh Baruch Hu, je dis voilà, écoute, certainement que dans ce que tu as prévu peut-être 10%, 20% pour payer, je sais pas moi, des trucs qui se cassent, des machines, des docteurs, des trucs comme ça, d'accord ? Alors si je me comportais bien, Akadosh Baruch Hu dit bon, écoute, on va réduire, on va taper sur ça. Mais on ne pourra jamais aller au-dessus du budget annuel. Jamais. On ne peut pas. Impossible. Impossible d'aller au-delà du budget annuel. C'est pas possible. Il y a une seule chose pour laquelle on peut aller au-delà du budget annuel. Vous savez, c'est quoi ?
L'auto.
C'est la femme.
Non.
C'est la budget
annuel ? Ouais, c'est la cave. Non, mais. Le Shabbat. Il y a une seule chose. Les frais du Shabbat et les frais qu'on paye pour la scolarité des enfants. Les frais qu'on paye pour la scolarité des enfants et les frais qu'on paye pour le Shabbat. C'est écrit que ça, c'est pas inclus dans le budget annuel qui était prévu par Dieu.
C'est
écrit que ça, Kol Amosif, Mosifinlo. Tout celui qui rajoute, on lui rajoutera.
Bon, la prochaine quand je reçois les frais d'avenir, je dis écoutez, je vous paye pas. Vous
mais c'est la vérité. Beaucoup.
Non, c'est écrit Talmud Torah. C'est écrit le sera Talmud Torah.
Maintenant,
il faut compter la. Il faut compter la.
Le code part
Talmud Torah.
Mais je dis ça,
mais ça vérifie tout ce que tu encourages finalement pour mettre les écoles juives.
Oui,
c'est pas
négocié.
Là, avant,
c'est
verra.
Exactement.
Et c'est
vrai, c'est vrai.
Ils se sont jamais retrouvés vraiment en galère.
Ça, c'est écrit à Kadosh Baruch Hu, je prends sur moi. C'est pas inclus dans le budget. Non, mais David, comme je dis, quand tu parles d'une école juive, il faut inclure la cote-part Talmud Torah.
Moi, je bagarre quelqu'un.
Ah ben bah tout dans l'école juive, hein.
Ah bah non.
Non mais tu verras que ça viendra, moi aussi, il y a des difficultés, il y a
qu'un... Il y a beaucoup de trolls, il passe 30% par exemple...
Si on calcule, ça tient pas dans le calcul.
Ah oui, c'est écrit Talmud Torah.
Il y en a beaucoup, si tu
commences à négocier.
Tu peux même pas envisager de les mettre au départ.
Absolument.
D'accord.
C'est marqué l'école juive.
Alors venez, on va lire ensemble maintenant dans les mots. Je suis après la parenthèse. Donc là, il va expliquer maintenant comment en vérité on est jugé tous les jours. Rappelez-vous, la terre d'Eretz Israël, on est jugé chaque année. Ça, on a expliqué. Contrairement aux autres pays, un juif est jugé aussi chaque année, à Rosh Hashanah, particulièrement au moment où on sonne le chauffard, c'est là qu'on envoie la nouvelle énergie. Mais en vérité, bifraté, pratiyut, ça veut dire le jugement du détail, comment je vais recevoir, comment ça va se présenter, etc. Ça, on est jugé au jour le jour, à chaque moment où on fait notre Amida. Chaque fois qu'on fait une Amida, Akadosh Baruch Hu, il décide qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la prochaine Amida.
Donc trois fois par jour, en fait.
Ah oui, trois fois par jour. On est jugé trois fois par jour. Chaque fois qu'on fait l'amida, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit, bon, maintenant, ce cas-là, celui-là, jusqu'à sa prochaine amida, bon, on lui fait ça. On décide ce qui se passera jusqu'à sa prochaine amida.
Tu peux changer le cours de ta journée.
Amida, ou jour,
on peut changer le cours de la journée à chaque amida, exactement. Exactement.
Chaque amida.
Finalement, c'est la répartition de la globalité qui est décidée.
C'est
tu disais 80 000 euros.
Oui,
c'est la répartition. Seulement 80 000, là je vais débloquer.
Oui, mais attends. C'est pas simple la répartition de la globalité, parce que dans cette répartition, on peut décider aussi, par exemple, est-ce que ça passera dans des réparations, ou est-ce que ça passera dans quelque chose qui sera utile pour moi.
C'est ça.
Donc c'est un facteur très important.
Bien sûr.
Ça change tout.
Bien sûr que ça change tout.
Tu comprends ? Tu vois une personne qui gagne beaucoup d'argent, mais qui n'est pas heureux, par exemple. C'est clair. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Il va décider par exemple ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, donc peut-être qu'il va décider si tu seras heureux ou tu seras pas heureux.
Et l'énergie que tu vas devoir faire pour même pour sortir de certaines choses et des fois ça.
Bien sûr. Voilà. D'accord. Ça, c'est, on est jugé d'amida à amida. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, le gars, tu viens faire mincha, tu dis écoute, Akadosh Baruch Hu. Bon voilà, il est 3h de l'après-midi, jusqu'à maintenant la vérité, c'était pas trop ça aujourd'hui. Hein ? Fais-moi un petit truc là, jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce soir. Après ce soir, tu me laisses tranquille. Après, il revient à la synagogue le soir, alors vite. Et après, il est rejugé, il rentre à la maison, sa femme, elle lui tombe dessus. Il dit, ah, désolé, ce jugement est mal passé.
Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est grave de rater l'amida. Des fois, tu
te rattrapes
le soir et puis c'est
pas bon. Ah,
bien sûr, c'est très grave.
Voilà, c'est bon. C'est comment, si pour l'instant, t'as une bonne journée, tu dis...
Voilà.
Ah, tu vois...
Ah oui.
C'est du bonus d'hier.
Mais non, parce que... Ok, dans les mots. Oui, fraté pratiyut, dans le détail, globalement, on est jugé du début de l'année à la fin de l'année. On est jugé sur une durée d'un an, les juifs. Mais dans les détails, ken hu bechol yom vayom. On est jugé comme ça, bechol yom vayom, chaque jour. Et particulièrement chaque jour quand? Nimshachim mochin aelyonim yoter bechol tfilat ashachar. Première tfila qu'on fait, c'est quoi? C'est la tfila du matin. Tfila de shacharit. Il y a une nouvelle énergie qui vient sur la personne. Une nouvelle énergie qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait la veille. on est une nouvelle personne. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, même si hier ça n'a pas marché, selon ma tefila, Kadosh Baruch Hu peut décider qu'aujourd'hui, je vais réussir à taper sur mon budget annuel.
Attends, selon ta tefila, tu dis quoi, attends?
Selon ma tefila.
Tu dis pas de kavana, tu dis au...
Non, c'est-à-dire que je vais être jugé à ce moment-là. Je sais pas, maintenant, je décide pas qu'est-ce que je vais vous juger, mais je vais être jugé à ce moment-là. D'accord? Je suis jugé au moment de la tefila du matin. Ve eina mochin arishonim shinistalko achar tefila, rak voin yotar vederech klal biklalit haolam. Beshit alfeshenin ken ou bechol rosh hashana ou rosh hashana. Donc il t'explique. Je vais un peu vite hein, parce que comme après c'est les vacances donc je voulais finir cette lettre. Donc il dit comme ça. Il dit qu'il faut savoir que depuis la création du monde et dans les 6 millénaires que sera la création du monde, chaque année et chaque jour on aura le même processus pour Eret Israël et pour le Ham Israël. Il n'y a jamais un jour qui a dérogé à la règle. Tous les jours il y a un nouveau jugement et un nouveau jugement. Ça veut dire en vérité, chaque année, il y a un jugement général, et chaque jour, il y a un jugement dans le détail. C'est comme ça depuis Shit Al-Feshnin. C'est comme ça pour les 6 millénaires, et c'est comme ça sera comme ça jusqu'à Mashiach. Quand Mashiach viendra, on ne sera plus jugé. Ah oui. Quand Mashiach viendra, on fait arrêt sur image. Et on reste comme ça. Après, on reste comme ça, et après, on profite de ce qui a été fait. Après, c'est trop tard. C'est compliqué, ça.
C'est pas compliqué, c'est vrai qu'il faut en intérêt à faire des mitzvot.
Ça veut dire exactement. Mitzvot. C'est écrit, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit, pourquoi c'est écrit, la Torah nous dit à propos des mitzvot, on nous dit Hayom. Dans le schéma, on nous dit, Vayot varim alech anorim tzavecha, Hayom. Hayom, aujourd'hui. La Torah te dit, tu gardes de faire la mitzvot aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tu dis, c'est pourquoi aujourd'hui? Allez, demain, je fais pas les mitzvot. La Gemara dit, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça veut dire tant qu'on est en galoute. Parce qu'une fois qu'on aura quitté la galoute, on pourra plus faire les mitzvot. Ça veut dire, on pourra faire, tu pourras mettre tes tefillin si tu veux. Mais tu ne ramasseras plus de nouveaux mérites. On fera un arrêt sur image.
Une fois, je sais pas qui a dit, une chose très très, je m'en sers souvent. Quand Mashiach viendra, on regrettera les temps passés.
Oui, bien sûr. Ouais.
Ah, c'est grave, ça veut dire quoi en fait? En fait,
l'explication
c'est que, oui, à Sarabi, pourquoi on dit ça? Ça paraît incroyable. C'est parce que quand Mashiach viendra, on ne pourra plus faire de mitzvot, on n'aura plus de tout ce qu'on magasinera.
Bien sûr, ça sera trop tard.
En même temps, on peut se... J'avais donné... pas que notre capital, on a aussi le capital.
Oui, mais j'avais donné une fois un exemple comme ça. J'avais donné une fois un exemple.
Parce que si tu dis ça, ça voudrait dire que, peu importe le niveau qu'on a, on pourra dire qu'on n'a jamais assez fait. Donc j'espère que c'est pas que notre mérite à nous qui est jugé, bah. Parce que ça peut être un peu léger après. Moi,
Oui, mais il a raison ce qu'il dit. J'avais donné une fois un exemple que j'avais entendu à la yeshiva.
Ouais, quoi qu'il arrive, tu peux dire.
À la yeshiva, j'avais une fois un rabbin qui a donné l'exemple suivant. Il avait dit, loin, hein. Imaginez-vous, qu'on vous fait rentrer dans un cockpit. Je crois que je l'ai déjà donné au cours de Tania.
Il y a plusieurs boutons.
Imaginez-vous qu'on vous fait rentrer dans un cockpit, mais on bloque les fenêtres. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la piste, vous ne voyez pas si vous êtes en haut, si vous êtes en bas, vous ne voyez rien du tout.
Vous sentez juste les sensations.
Tu vois juste des boutons. Non, tu sens même pas les sensations.
Pas.
Tu vois juste des boutons. Et t'as un pilote qui est à côté de toi qui dit attention, faut appuyer sur les boutons de droite et pas sur les boutons de gauche. Il dit voilà, vous appuyez sur les boutons de droite, vous construisez, vous appuyez sur les boutons de gauche, vous détruisez. Maintenant toi tu vois rien, toi t'appuies, ça fait rien du tout, tu vois rien du tout. Donc toi tu es là au début tu es là, tu écoutes, alors tu appuies là, après chaque heure, attention, n'oubliez pas le bouton d'ici et le bouton d'ici, et pas ici, etc. Après un moment tu craques, tu dis bon allez t'appuies n'importe où, en plus les boutons de gauche sont attirants, ils sont bien rouges, etc. Ouais. T'appuies n'importe où. Bon, pas grave. Après même t'arrêtes de faire, tu fais ni l'un ni l'autre, tu te laisses aller. Quand ma chère va venir, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres du cockpit. On te dit regarde, voilà ce que tu as fait. Là tu as construit, là tu as détruit. Tu dis ah mais désolé, je vois plus. Ah non, c'est trop tard, le cockpit est fermé, non, tu peux plus appuyer les boutons. Trop tard. Comme ça, le rabbi précédent, il disait, répétait très souvent dans ses discours, il disait, Yidelach, c'est une expression pour dire, juif, profitez encore tant qu'on peut encore faire des mitzvot. Après, ce sera trop tard. Vraiment, c'est comme ça. Bon, on revient maintenant. Mais Zéou Shekatouv, Tamid, Shalim qui termine par Tamid, Tamid est né Hashem Elokechaba. On comprend maintenant pourquoi dans ce verset qui parle de la terre d'Eret Israël, qu'est-ce que dit le verset de la terre d'Eret Israël? Il dit, c'est une terre sur laquelle se trouvent les yeux de Dieu. Pourquoi on parle des yeux de Dieu? Les yeux de Dieu sont rivés sur elle du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On a déjà expliqué ce que ça veut dire le début et la fin de l'année maintenant. Maintenant, on a bien compris. On a expliqué début et la fin de l'année, on a expliqué que ça veut dire qu'on est jugé une fois par an. Ça, on a expliqué. On a expliqué que même si on est jugé tous les jours, c'est que sur le détail, mais en vérité, sur la globalité, on est jugé une fois par an. Ça, on a expliqué. Mais pourquoi on parle des yeux de Dieu? C'est-à-dire que les yeux de Dieu sont rivés sur elle. Pourquoi tu dis pas, je sais pas, moi, pourquoi tu dis pas les oreilles de Dieu? Pourquoi tu dis pas le regard? Enfin, pourquoi tu dis les yeux de Dieu? C'est quoi les yeux? Ça représente quoi les yeux? Qu'est-ce que ça représente les yeux? Pourquoi tu parles des yeux de Dieu? Ça n'a pas expliqué encore.
Le sens de la vision, quoi.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la vision de Dieu? L'année, on a compris. Parce qu'on a, vous avez compris ce que veut dire l'année. Celle-là, non, on a compris.
Pourquoi on ne dit pas il n'écoute pas, ou pourquoi on dit...
Pourquoi on ne dit pas tout simplement qu'il surveille cette terre chaque année, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ok, ça on a compris. Ça veut dire que chaque année se renouvelait du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il la surveille chaque année. Pourquoi les yeux ?
On dit les yeux, on dit qu'il ne la surveille pas ou il n'écoute pas. Ou...
Voilà, c'est pas par hasard. Il va expliquer. Il dit, « Vezeu shekatuv, tamid eine Hashem elokechaba, she'ainaim em kinuim leam shachat ve'arat or hochma, shelachen nikra'u chachamim eine a'eda. » Il dit comme ça, il dit, c'est très simple. Il dit, qu'est-ce que ça représente les yeux ? Chez un homme, qu'est-ce qu'on retrouve dans les yeux ? Ça représente quoi les yeux ?
L'expression.
D'accord ? Les yeux, ça représente l'expression. Les yeux, ça représente l'intelligence. On dit que l'intelligence d'une personne se voit dans ses yeux. Et d'ailleurs, même quand on est en train de réfléchir, on cherche une idée, et à un moment, tu trouves une idée, qu'est-ce qui va se passer ? La première chose qui va s'illuminer, c'est quoi ? C'est tes yeux. On le voit tout de suite. Après, le reste du visage, peut-être il va suivre, peut-être il va pas suivre. Mais les yeux, ça parle le plus que le reste du corps. Quand on voit les yeux de quelqu'un, on peut savoir s'il est angoissé, on peut savoir s'il est triste, on peut savoir s'il est heureux, on peut savoir s'il a trouvé une bonne idée, on voit tout dans les yeux.
Ça dépend, il y en a qui savent.
Il y en a qui apprennent à cacher, bon, c'est comme tout.
C'est vrai, tous les signes.
On apprend, c'est raison, tout se travaille.
Tout ce que tu
mais il faut se travailler pour ça. Tout, même tout, on peut tout fausser, la graphologie, on peut fausser, les signes, on peut tout fausser. Mais je parle naturellement. Tu vois, naturellement, tu vois un enfant par exemple. Un enfant qui ne cherche pas à mentir, à cacher quelque chose. Tu le vois, tout de suite dans ses yeux, tu vois comment il est.
En fonction de la position des yeux, tu devines déjà des
ouais. Les yeux, c'est très expressif. Donc il dit comme ça. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des Talmidei Chachamim, comment on appelle les Talmidei Chachamim ? On les appelle les yeux de la communauté. Pourquoi les yeux ? Parce qu'un Talmid Chacham, en vérité, ça représente l'expression de la communauté. C'est avec lui qu'on peut communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Donc il dit, maintenant, on comprend pourquoi, hein, quand on veut dire qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle son énergie chaque année, qu'est-ce qu'on a utilisé comme expression ? Les yeux. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, avec la terre d'Eretz Israël, il s'exprime avec cette terre. Et dans cette terre-là, on arrive à ressentir tout de suite quand Dieu est content de nous et quand Dieu n'est pas content de nous, comme les yeux de quelqu'un. On dit que quand on était à l'époque du Beit HaMikdash, les Juifs, un Juif qui ne faisait pas de Torah Mitzvot, tout de suite il voyait que ses affaires commençaient à chuter. Il recommence à faire Torah Mitzvot, tout de suite il voyait que ses affaires recommençaient à marcher bien. C'est mamache comme ça. Parce qu'on dit que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre dans laquelle les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une terre dans laquelle on arrive à voir l'expression d'Akadosh Baruch Hu. On arrive à voir comment là Dieu est content de moi, là Dieu n'est pas content de moi. Dans les autres terres, tu vois pas les yeux, donc tu sais pas si... C'est comme tu vois le dos de quelqu'un, tu sais pas s'il te fait la tête ou il te fait pas la tête. Alors, c'est rien du tout. Quand tu vois les yeux de quelqu'un, tout de suite tu sais. Voilà pourquoi on emploie le terme « Eine Hashem Elokechaba », les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre particulière. J'ai pas encore fini avec ce pasouk. Le pasouk qui nous dit la chose suivante. Dans la parasha de la semaine prochaine, il nous dit « Eine Hashem Elokechaba ». C'est une terre que les yeux de Dieu sont dirigés vers elle. Donc on a expliqué pourquoi les yeux, c'est-à-dire c'est une terre dans laquelle Akadosh Baruch Hu s'exprime avec nous. On arrive à ressentir, on arrive à voir Akadosh Baruch Hu, à ressentir s'il est content de nous ou s'il n'est pas content de nous. Depuis le début de l'année, on a dit jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'énergie, le jugement de la terre d'Israël est renouvelé chaque année. Il y a encore un problème, oui ?
Vas-y. Est-ce que la terre d'Israël, c'est le reflet des yeux de Hachem, ou c'est une conséquence de la vision de la terre ? Est-ce que c'est le reflet comme dans un miroir ?
Oui,
ou alors, bien. Est-ce que lorsque la terre d'Israël voit les yeux d'Hachem, est-ce qu'elle va bien ?
Non, il explique qu'en vérité, il n'y a pas de yeux d'Hachem. Quand on dit les yeux d'Hachem, ça veut dire qu'on veut, on veut expliquer que dans cette terre... on ressent l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Partout, Dieu regarde partout. Et dans cette terre, on arrive à voir les yeux de Dieu, ça veut dire qu'on arrive à ressentir l'expression de Dieu. On arrive à ressentir quand Dieu est content de nous et quand Dieu n'est pas content de nous.
On parle de quelle terre ?
Vous voyez ce que je veux dire ?
On parle de quelle terre ? On voit la main d'Hachem, on voit pas les yeux d'Hachem.
C'est pas évident.
On parle de quelle terre ?
D'accord, aujourd'hui c'est pas évident parce qu'on est en Galoute.
Les frontières.
Mais on dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, en dehors d'Eretz Israël, il y avait pas ça. Il y avait que en Eretz Israël. Qu'on arrivait à ressentir quand Dieu était content de nous et quand Dieu n'était pas content de nous. De manière, c'est-à-dire que Dieu s'exprimait avec nous, comme les yeux. Dès que quelqu'un n'est pas content, il n'a pas besoin de te parler, tu le vois dans ses yeux.
Il paraît que les commerçants, ils voient la main.
De
quelle frontière on parle là ?
Eretz Israël ?
Ouais, mais là, on est de où à où là, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il n'y a plus cette notion-là d'expression de Dieu. Qu'on ressent l'expression de Dieu. Mais il y a encore la deuxième notion. J'ai expliqué
on
deux notions.
Quand même les choses dans Israël.
Non, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on ressent quand Dieu est content de nous et quand Dieu n'est pas content de nous. Ça, c'est un des pièges de la galoute. un des pièges de la galoute, c'est qu'on ressent plus ça, parce que c'est justement, c'est pour ça que la galoute est difficile. Mais par contre, on garde toujours le premier aspect que j'expliquais tout à l'heure, que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui est jugée une fois par an. Ça, ça garde toujours.
D'accord, mais c'est quoi là? C'est quoi? C'est de où à où?
C'est la superficie d'Eretz Israël.
Ouais, mais c'est il y a quoi dedans?
Quoi, il y a quoi dedans?
Je sais pas, c'est quoi les limites, les limites de la Torah?
On a les limites de la Torah.
C'est la limite qui a été donnée par Moshe.
Les limites de la Torah.
C'est qui a été donnée sous Moshe. C'est les limites que après qui ont été agrandies avec les conquêtes de David.
Tout ce qui est appelé Eretz Israël à ce moment donné.
Quel moment donné?
Par exemple, le roi David a fait plusieurs conquêtes.
Il a agrandi, voilà.
Il a agrandi. Mais le problème, c'est que la Gemara définit que les conquêtes que le roi David a fait, étant donné que initialement ça fait partie de l'Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Israël seulement tant qu'on y a le contrôle. Dès qu'on perd le contrôle de ces endroits, c'est plus Eretz Israël. Mais alors que les terres originales qui sont écrites dans la terre d'Eretz Israël, les frontières originales, ça, même si on nous les prend, ça reste toujours notre terre.
D'accord, mais là on a le contrôle.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois, mais on a le contrôle des lattes, mais là c'est pas dans les limites. Alors c'est quoi?
Ça s'appelle pas Israël. C'est pas Israël.
Alors que tu remontes au Liban, il y a des parties.
Oui, c'est très haut. C'est jusqu'à
parce que pour qu'une terre soit appelée Eretz Israël, il faut que la conquête de cette terre soit faite de manière qu'elle soit gérée par le Sanhédrin, comme à l'époque du roi David. Or, comme Elad, c'est vrai que tu as raison, Elad, ça a été pris par l'État d'Israël, mais ce n'était pas par le Sanhédrin. Donc Elad, après beaucoup d'avis, d'ailleurs en général ceux qui habitent à Elad font deux jours de Yom Tov, pas un jour.
Ah bon?
Oui, bien sûr,
avant,
beaucoup.
Oui, c'était pas en Israël.
Bien sûr. Elad, c'est pas en Israël. D'après beaucoup d'avis, Elad, ça n'est pas considéré Israël. Parce que, étant donné que Elad, ça ne fait pas partie des frontières de la Torah, bien qu'aujourd'hui ça nous appartient, mais comme ça ne fait pas partie des frontières de la Torah et que la conquête n'était pas sous l'emprise du Sanhédrin, donc ça ne s'appelle pas Eretz Israël. Ça s'appelle la Gdoucha de Eretz Israël.
Mais donc le Liban, elle a la Gdoucha de Eretz Israël.
Non, mais attends, c'est tant mieux.
Non, tant mieux.
Parce que
c'est
dans.
Le Liban, oui.
C'est dans les limites.
Quoi?
Pourquoi c'est tant mieux?
Tant mieux, au moins les bêtises sont faites là-bas, elles ne sont pas faites en Israël.
Mais sont pas. Il n'y a pas plus de bêtises qu'à Tel Aviv.
Il y a raison, c'est vrai.
Il y en a beaucoup moins. Mais...
Bon, il nous manque encore maintenant quelque chose. Donc on a déjà expliqué deux points dans ce cours. On a expliqué la notion que Dieu juge du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire qu'on est jugé chaque année, que le juif est comme ça aussi. On a expliqué que ça c'est calqué sur. Donc le juif est calqué sur la terre d'Eretz Israël qui elle-même est calquée sur. Le Gan Eden. D'accord, le Gan Eden et le Gehinnom. On a expliqué un deuxième point on a expliqué les yeux de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la terre d'Eretz Israël, normalement, on ressent beaucoup plus facilement l'expression de Dieu. On ressent est-ce que Dieu est content de nous ou Dieu n'est pas content de nous. Maintenant, il va expliquer un troisième point. Dans le Passouk qui parle de la terre d'Eretz Israël, c'est écrit les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Sauf qu'il y a un problème. Pour écrire le début en hébreu, on écrit normalement. Comment on écrit Rosh Hashanah? Rosh, comment on écrit Rosh? Resh, Aleph, Shin. Il y a un Aleph. C'est une syllabe, le Aleph, c'est une syllabe qui ne se prononce pas, mais c'est une syllabe qui est écrite. Rosh Hashanah. Resh, Aleph, Shin. Donc normalement, quand tu veux dire Mereshit Hashanah, depuis le début de l'année, depuis Rosh Hashanah, tu devrais écrire même, donc même, mais, Reshit, Resh, Aleph.
Et alors tu le fais.
D'accord? Resh, Aleph, Shin. Mereshit Hashanah, avec un Aleph, comme pour dire Rosh. D'accord? Le problème, c'est que là, on n'a pas mis le Aleph. Regardez, vous pouvez le lire en bas.
Vezehu Shekatouf. C'est le cédère de Rosh Hashanah.
Exactement. Vezehu Shekatouf, dernière ligne, avant-dernière ligne. Regardez comment le pasouk le dit. Mereshit Hashanah ve'ad acharit Shanah. Vous voyez comment c'est écrit Mereshit? Normalement, entre le. Je suis à l'avant-dernière ligne. Tu as David?
Ve'ad acharit Shanah.
Avant, t'as descendu?
Oui, j'ai sauté un petit peu, j'explique à l'oral. Il explique que la terre d'Eretz Israël, parce que j'ai expliqué tout ça déjà. Vezehu Shekatouf.
Je suis deux lignes avant.
Voilà. Vezehu Shekatouf. Avec ça, on va comprendre pourquoi c'est écrit. Mereshit Hashanah ve'ad acharit Shanah. Vous remarquez dans ce pasouk? Reshit, comment c'est écrit? Reshit, c'est écrit même Resh Shin Yud Tav. Normalement, si vous suivez les règles de grammaire, normalement, il aurait dû avoir un Aleph entre le Resh et le Shin pour dire Rosh. Pourquoi il n'y a pas de Aleph? Pourquoi il manque ce Aleph? Surtout que Mereshit Hashanah, c'est-à-dire depuis Rosh Hashanah, ce qu'on vient d'expliquer. Là, il explique. Il dit, Velachen, ti, Mereshit Raser Aleph. Pourquoi c'est écrit Mereshit sans Aleph? Comme la question qu'on vient de poser. Romez, Alistalkut, Aor, Shemistalek, Belel, Rosh Hashanah. Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Que le soir de Rosh Hashanah, lundi soir, l'énergie s'en va.
Oui.
Et elle revient quand, on a dit? Le lendemain, au moment du chauffard. C'est-à-dire qu'il y a un moment de vide. C'est la raison pour laquelle on a enlevé le Aleph du mot Reshit Hashana. Roche, c'est quoi Reshit Hashana? C'est Rosh Hashana. De Rosh Hashana, on t'a enlevé le Aleph. Pour te dire, sache que dans le Aleph de Rosh Hashana, au début de Rosh Hashana, il n'y a pas d'énergie. Vous voyez l'image? On t'a enlevé le Aleph du mot Reshit, donc de Rosh Hashana, pour te dire, sache que dans le Aleph de Rosh Hashana, dans l'instant numéro 1 de Rosh Hashana, dans les premiers instants de Rosh Hashana, dans les instants Aleph de Rosh Hashana, il n'y a pas, en vérité, il n'existe pas, il n'y a pas d'énergie. Voilà pourquoi on supprime le Aleph.
Est-ce que grammaticalement, c'est uniquement là que ça se retrouve sous cette
forme-là? Ah oui, uniquement là.
Ou sinon, si on prend d'autres mots sur lesquels on met...
Aleph, obligé, c'est la grammaire, ça ne veut rien dire là. Okay.
Non, mais je connais pas trop la grammaire.
Si vous prenez le roumage, regardez.
Mais Réchi, non, mais je me posais la question.
Dans le roumage. Non,
parce que est-ce que d'autres mots qui commenceraient, qui seraient sous la même forme, qu'on rajouterait le préfixe?
Chaque fois, il y a une raison. Allez, je vais vous montrer. C'est Mereshit Hashana Vadachrit Shana. Alors, c'est... Voilà. C'est dans Mish et Kev, Yudalef Yudbet. Donc, c'est la fin de la semaine prochaine. Il n'y a pas de hasard. Kev.
Et pas de hasard aussi, parce que ce soit juste avant les vacances.
Bien sûr. Non, ça, c'est moi qui ai choisi la lettre.
Non, je parle de votre Hanan.
Ah, oui.
Faire le fait de respecter la terre.
La terre d'Eretz Israël, bien sûr.
D'Eretz Israël.
Regarde.
D'étudier,
tu vois
d'étudier la sainteté de la terre d'Israël avant de partir, c'est vous.
C'est le début du cours.
Ouais.
Quand tu vas en Israël, tu fais un visa spirituel.
Regardez, dans la parasha la semaine prochaine, dans le Shishi, d'accord, le Moshe Rabbeinu prévient les bénis Israël qui vont entrer en Israël. Il leur dit, la terre que vous allez venir pour l'hériter, c'est pas comme l'Égypte, d'accord? C'est pas comme l'Égypte, c'est une terre que c'est une terre que dans laquelle il y aura de la pluie. Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota Tamid, c'est une terre que Dieu recherche toujours. Comme on expliquait, c'est-à-dire que Dieu a constamment les yeux sur cette terre et constamment il regarde est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok. C'est comme un patron qui a toujours les yeux rivés sur une certaine section. Il la lâche jamais. Contrairement aux autres pays où des fois Dieu il peut laisser tourner. Comme on expliquait. Tamid toujours, Eine Hashem Elokecha Ba, les yeux de Dieu sont rivés sur elle, Mereshit Hashana Vadachrit Shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez la petite étoile, Mereshit, qu'est-ce qu'il te dit ici? Chaser Aleph, il manque un Aleph. Ah. C'est pas. C'est écrit, d'accord? Mereshit, Chaser Aleph, il manque un Aleph. Vous lisez Rashi ne dit rien sur ça. Alors Rashi par contre s'arrête, Mereshit Hashana, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Mais Rosh Hashana Nidon, depuis Rosh Hashana on est jugé, Maï Ebe Sofa, qu'est-ce qu'il y aura jusqu'à la fin de l'année? C'est ce que je vais expliquer. D'accord? À ce moment-là, on l'a expliqué longuement depuis le début de la création du monde. Donc, voilà, il t'explique, selon la Gemara Zakkai, il te dit pourquoi il manque un Aleph dans le mot Mereshit Hashana. C'est pour faire une allusion au fait qu'au début de Rosh Hashana, il y a un moment de vide. Voilà pourquoi on t'a supprimé le Aleph de Rosh Hashana. Pour te dire, Aleph, c'est la première lettre. Pour te dire, dans les premiers instants de Rosh Hashana, il n'y a pas d'énergie. On vit seulement sur les restes de l'année dernière. Voilà pourquoi on a supprimé le Aleph pour faire une allusion. Il n'y a pas le Aleph. On vit seulement sur les restes de l'année dernière. C'est bon, David? D'accord? Ça, c'est une petite parenthèse. Ok. Donc, tout ça pourquoi? D'accord?
Il m'a glacé, mais ça va.
Ouais. Ah, t'as froid, d'accord.
J'ai quand même deux ans.
Moi, je suis bien, là. Alors, Yves aussi, il est bien.
Non, mais il doit être par là, là.
Ad achar atkiot, shiyored, or chadash, elyon yoter, shelay mire denua. Ça, j'explique à l'oral. Ok. Donc, mais il dit, mais seulement, ça dépend de quoi? Ça dépend de nos actions pendant la Seret Metshuva avec Daily Mevin. Donc, ça, c'est une lettre que, rappelez-vous, la Gemara Zakkai, pourquoi elle a fait cette lettre? Pour encourager la tzedaka pour Eretz Israël. Quand il s'est rendu compte que les gens avaient du mal à donner la tzedaka pour Eretz Israël, elle leur a dit, écoutez, là, vous voyez le message.
Du coup, il nous a...
Le message, il dit, écoutez, vous êtes jugé chaque année, votre jugement, il passe par la terre d'Israël, donc finalement, le fait de donner la tzedaka pour Eretz Israël, d'accord?
C'est en dehors de la part de...
Alors, il n'a pas dit ça, mais bon, il a dit en vérité, la terre d'Eretz Israël, elle est comme nous, quoi, elle a notre image, donc... Donner la tzedaka pour Eretz Israël, c'est pas comme si tu donnais la tzedaka à n'importe qui. Donc ça, c'est une lettre dans laquelle il dit, je sais que si vous avez du mal à donner, c'est parce que c'est la crise, mais il faut quand même donner la tzedaka pour Eretz Israël.
La crise déjà à l'époque.
D'accord. Ouais, c'était bien sûr. On explique au début du cours. Donc avec ça, on a expliqué la qualité d'Eretz Israël. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, c'est une terre. Donc qui peut résumer? Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur Eretz Israël? On reprend. C'est très simple. On va suivre le pasouk.
Si la terre sur laquelle il est au-dessus.
On va reprendre le pasouk. Qu'est-ce que nous dit le pasouk?
D'année en année.
Le pasouk nous dit, c'est la terre sur laquelle les yeux de Dieu Alors pourquoi les dieux déjà? Ça veut dire quoi les dieux?
Parce que c'est en Israël, on ressent
l'expression de Dieu. Quand Dieu il est content de nous, quand il n'est pas content de nous. On continue le passage. Les yeux de Dieu sont rivés sur cette terre du début jusqu'à la fin de l'année.
Parce qu'il est rejugé chaque année.
Pourquoi on ne dit pas toute l'année? Parce qu'on est rejugé chaque année. On est rejugé chaque année. Contrairement aux autres pays dans lesquels on a dit on n'est pas jugé par période, dans la terre d'Israël, on est jugé chaque année. On a expliqué qu'un juif est jugé aussi.
Chaque année,
on est jugé chaque année pour la globalité. Chaque jour, et plus particulièrement chaque tfila, on est jugé sur le détail comment va être utilisée la globalité qui a été décidée avant Shoshana. Et enfin, dernier détail qu'on a expliqué, pourquoi c'est écrit Mereshit avec sans le Aleph?
Parce qu'il n'y a pas d'énergie.
Pour nous dire qu'au début de Rosh Hashanah, les premiers instants de Rosh Hashanah,
jusqu'à la sonnerie du shofar, il y a un manque d'énergie.
D'accord.
Et que c'est lié, et qu'il manque le Aleph de l'énergie, le début.
Voilà. Donc avec ça, on a pu expliquer comment ça se fait que les juifs sont naturellement attirés vers la terre d'Eret Israël. Voilà, ça va être là pour aujourd'hui.
Tu as compris
On a fini un peu tard aujourd'hui, désolé, mais bon, je voulais finir le